cet essai un petit peu de retour réflexif. J'espère que j'arriverai à dégager un certain nombre de points qui nous permettront de discuter ensemble. Et j'attends aussi moi, beaucoup de la discussion, au-delà même de la singularité de mon expérience, en fait. Hein. Et donc, on a rarement l'occasion de faire ça. Donc, là aussi, merci beaucoup de m'avoir poussé à le faire, hein, parce que ça, je crois que c'est indispensable d'avoir aussi ces temps de retour pour pouvoir, du coup, dialoguer et mieux comprendre aussi ce que nous disent d'autres chercheurs à partir de leur propre expérience. En fait. Alors, j'ai commencé à l'évoquer, là, étudier le syndicalisme, étudier les grèves, étudier les mouvements sociaux, les luttes salariales, hein, n'est pas dissociable, en tout cas dans la posture que j'ai adoptée, ou que j'ai souhaité adopter, et que je tente de mettre en pratique, d'un travail en lien avec les syndicats, soit d'une activité politique nourrie par mes recherches, en direction des syndicats. Alors, peut-être que ça va vous paraître artificiel et on y reviendra dans la discussion, mais je dirais que c'est une posture qui s'est assez vite imposée à moi, que j'ai en quelque sorte un peu hérité, hein, en travaillant avec quelqu'un que vous allez recevoir et que Fabien a déjà évoqué, qui s'appelle René Mouriot, sachant que j'ai commencé mes travaux de recherche sur le mouvement social de l'automne 95, dans un contexte qui était également favorable à ce type de posture, puisque après le mouvement de... Alors, à la fois, dans le cours du mouvement social de 95, vous le savez, il y a des luttes pour dire, de définition du mouvement en cours qui sont extrêmement importantes, qui participent de la mobilisation, notamment avec la bataille des pétitions autour de Touraine et autour de Bourdieu. Et puis, après le mouvement social de 95, il y a eu le lancement des états généraux du mouvement social autour de Pierre Bourdieu, qui était justement l'idée de créer des lieux de discussion entre chercheurs universitaires et militantes engagées dans la mobilisation. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au départ, je l'ai assez peu réfléchi, puisque j'ai aussi, quelque part, bénéficié du contexte même d'engagement dans la recherche. En fait. Alors, vous aurez sans doute l'occasion d'en discuter avec René Mouriot, mais lui, de son côté, il a travaillé au cours de plusieurs décennies sur l'objet syndical. Il a toujours été proche de certaines organisations, en particulier de la CGT, des instances dirigeantes de la CGT, avec des hauts et des bas dans ses relations. Je reviendrai sur la signification de ça. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai tout de suite été introduite au sein du mouvement syndical. Au sein du mouvement syndical qui était présent dans les manifestations du mouvement social de l'automne 95. Donc, pas de l'ensemble du mouvement syndical. Et je vais y revenir aussi tout à l'heure. Un mouvement syndical en pleine recomposition, avec l'apparition de nouvelles organisations à l'époque, FSU, les premiers Sud, l'existence d'une opposition interne au sein de la CFDT, et puis des courants aussi critiques au sein de la CGT. De 95 au début des années 2000, j'ai d'ailleurs été membre d'une association qui s'appelait Récit, qui s'est ensuite fondue dans la Fondation Copernic sous l'impulsion de Jacques Kergoat, hein, et dont l'objectif était, hein, d'une part, de créer des lieux de discussion entre chercheurs, universitaires et syndicalistes, non seulement des lieux de discussion, mais aussi des lieux d'initiative commune. Et là aussi, je vais y revenir tout à l'heure, pour moi c'est important, des journées d'études, des colloques montés en commun, des ouvrages écrits en commun, en fait. Donc enfin, à la fois de différencier le niveau d'écriture, mais en même temps d'accepter cette différenciation dans le niveau d'écriture. En fait. Et dans l'objectif était d'autre part, d'une certaine façon, de contribuer à la recomposition syndicale, de favoriser des lieux de rencontre entre des militants des Suds, de la FSU, de la CGT, de la CFDT oppositionnaire. Et donc, c'était quelque part une prise de position interne au sein du mouvement syndical au travers de l'activité de cette association. Hein. Donc, une association qui ne se pensait pas comme strictement relevant du monde académique, en fait. Alors, peut-être pour le dire de façon très claire, même si ça appelle bien sûr à discussion et que ça va soulever un certain nombre de problèmes de définition, cette démarche, cette posture, elle a fait sens pour moi, ou elle fait sens pour moi en s'inscrivant dans une approche marxiste, en fait, hein, c'est-à-dire construction d'un intellectuel collectif, hein, pour comprendre ce qu'on pourrait qualifier comme les luttes des classes, les luttes de classe actuelles, hein, d'un intellectuel collectif qui se pense au service d'un projet d'émancipation, qui ne se pense pas comme séparé de ce projet du sujet de cette émancipation, tout en sachant bien qu'il n'est pas inclus sociologiquement dans ce sujet, hein, qu'on appelle ce sujet classe ouvrière, prolétariat, classe populaire, on a du mal à le définir aujourd'hui. C'est bien un des enjeux, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas été socialisée, pour ma part, à la recherche, dans une perspective de neutralité axiologique. Bien au contraire, même. Hein. Dans un refus de cette posture de neutralité axiologique. Et là aussi, même si cette posture, on la retrouve ensuite au cours d'une carrière universitaire. Elle vient quelque part vous questionner, et je vais aussi essayer de l'évoquer, en fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Je vais bien sûr thématiser davantage mon propos, mais je voulais en introduction là revenir un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que se dire, ben voilà, je viens devant vous et quelque part j'estime que oui, peut-être que je peux vous parler d'une sociologie engagée. Je pense que c'est important donc de revenir sur des pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est des pratiques qui me sont longtemps apparues comme allant de soi et qui ne vont pas du tout de soi, justement, et notamment pour des collègues qui travaillent aussi sur des organisations syndicales. Ou sur d'autres types de mouvements sociaux. Je pense notamment à un collègue qui travaille sur la Confédération paysanne et qui m'a, un jour en échangé, m'a fait très clairement comprendre que pour lui, ce type de pratique était source de confusion dans le travail scientifique. Hein ? Pouvait être source de confusion dans le travail scientifique. Donc, quel type de pratique ? Ben moi, depuis le mouvement de 95, depuis que je mène des recherches sur les syndicats et les grèves, hein, conflits sociaux, j'ai aussi mené des recherches pour les syndicats, à la fois pour la CGT, notamment pour l'organe des jeunes au sein de la CGT, le Centre confédéral de la jeunesse, hein, qui s'interrogeait sur les conditions d'engagement, les processus d'engagement de jeunes salariés dans le syndicalisme. Donc c'était une demande explicite qui venait d'eux. J'ai travaillé avec eux pour essayer de traduire cette demande en un dispositif de recherche et en une recherche sociologique. Je travaille depuis 2008 avec Solidaire, avec le secrétariat, le bureau national de Solidaire, dans une réflexion sur leur fonctionnement interne, sur leur processus de construction et sur les difficultés qui se posent à eux, notamment par rapport à l'organisation des précaires. En fait. Concrètement, ça veut dire quoi comme pratique ? C'est que le fait de participer à des formations syndicales, parfois de créer, de penser certaines de ces formations syndicales. Par exemple, j'ai monté une formation au niveau national pour Solidaire sur les enjeux de la précarité. Donc ça veut dire aussi, là aussi je vais bien sûr y revenir tout à l'heure, mais s'adresser à un autre type de public que le public des étudiants à l'université. Et puis, autre type de pratique, je ne vais pas toutes les évoquer, mais ça veut dire aussi écrire dans des revues syndicales ou dans des revues qui se veulent à la charnière entre la recherche des revues de vulgarisation qui se veulent à la recherche, à la charnière entre le monde de la recherche et les mouvements sociaux, écrire dans des maisons d'édition qui ont pour vocation, qui se donnent pour vocation de diffuser les savoirs académiques au-delà du cercle du public universitaire. Ce qui, là aussi, est extrêmement important par rapport aux conditions d'appropriation de ces recherches, en fait. Donc, un ensemble de pratiques qui amènent à une réflexion permanente sur les limites hein, de cette relation au syndicalisme, au mouvement syndical, et évidemment aux organisations qui composent ce mouvement syndical. Alors, pour continuer à un petit peu objectiver les choses dans cette introduction, et avant d'en revenir à un certain nombre de thèmes, pour bien vous faire comprendre d'où aussi les tensions et comment je peux ressentir de mon côté ces tensions. Et je dis ça sans fausse modestie, mais il y a un certain nombre de textes, parce qu'ils portaient sur l'analyse, l'actualité syndicale, parce qu'ils portaient sur des mobilisations sociales en cours. Par exemple, durant l'automne 2010, la mobilisation contre la réforme des retraites. Un certain nombre de textes que j'ai pu écrire avec d'autres, par exemple avec Carré Lyon, avec qui je travaille beaucoup, ont circulé dans différents réseaux militants, servant à appuyer telle ou telle position critique au sein des organisations syndicales. Certaines positions critiques par rapport aux directions syndicales. Donc ça a pu être le cas par rapport à la CFDT notatiste, dans la période qui va de 1995 à 2003. Tant et si bien, par exemple, et j'évoque ça parce que c'est des choses qui arrivent dans l'activité scientifique qui me semble importante à dire, pour les objectiver. Par exemple, moi j'ai pris des droits de réponse de la direction de la CFDT suite à des articles que j'ai publiés. Hein. Vous avez la direction de la CFDT qui demande à la revue un droit de réponse. La revue qui est un petit peu étonnée parce que c'est assez rare en fait, hein, notamment un article dans Mouvement. Autre chose qui va vous amuser, des relations qui peuvent être difficiles aussi parfois à la direction de la CGT. Alors, si je précise ça, c'est que le fait de ne pas poser une barrière stricte entre le travail de recherche et toutes les activités que je viens dénoncer, le fait de faire des formations, le fait d'écrire dans des supports qui ne sont pas strictement académiques, expose aussi le travail de recherche, peut conduire aussi d'une certaine manière, c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, à aussi brûler son terrain, hein, à rendre difficile l'accès aux organisations sur lesquelles on travaille. Suite au congrès confédéral de la CGT à Montpellier en 2002, j'évoquerai juste cette anecdote, j'avais donné un entretien à la fin du congrès dans la presse, à l'Humanité en l'occurrence, pas très malin, je vais venir après, et cet entretien a fait l'objet d'une condamnation officielle, hein, lors de la réunion du bureau confédéral de la CGT qui s'est tenue le lundi suivant, au titre qu'un chercheur, je cite, hein, ce qui a été dit, un chercheur proche, travaillant avec et dans la maison, hein, ne pouvait pas dire cela. On pouvait le tolérer d'un chercheur extérieur, on ne pouvait pas le tolérer d'un chercheur à qui on avait confié des recherches dans la CGT. Dans le papier, je répondais un petit peu sur justement les effets, c'était sur le dispositif un peu de mise en scène des débats pour donner l'impression dans le congrès qu'il y avait un approfondissement du débat au sein de la CGT. Et donc, du coup, moi, je revenais un peu sur le dispositif, la construction, la mise en scène de ce débat, ça a beaucoup déplu. En fait. Donc, ça fait partie des moments où je me suis interrogée sur le sens, hein, de mon engagement, sur les frontières, justement, à établir, à construire. Sur les frontières avec les médias et les formes d'instrumentalisation qui résultent de ce rapport, hein, aux médias qui vont vous identifier en tant qu'expert, hein, j'y reviendrai, et sur le rapport, sur le sens du rapport aux organisations syndicales. Mais alors, je suis évidemment pas la seule dans ce cas. Hein. Dans le cadre d'une recherche collective que nous avons menée sur la formation syndicale, dans le cadre d'une ANR, hein, à Lille, qui a été dirigée par Nathalie Etuin et Karel Lyon, on avait travaillé non pas avec les organisations syndicales, mais sur les organisations syndicales, en suivant un certain nombre de stages de formation. On essayait de toute l'année porter sur le sens aujourd'hui de la formation syndicale, à la fois le contenu et les processus d'appropriation des connaissances, qui la volonté de transmettre ces connaissances au sein de ces stages syndicaux. Donc, il nous a semblé logique, par exemple, durant le colloque final, d'inviter les organisations syndicales qui nous avaient accueillis pour assister à leur stage. Or, le fait qu'il y ait des critiques sur le rapport à la pédagogie des organisations syndicales a suscité très fortes réserves, très fortes critiques, là encore, de la CGT, par rapport au papier qui objectivait, hein, leur rapport à la pédagogie. Et ça a déclenché un rejet fort de cette recherche, hein, un refus total de dialogue sur cette recherche. Donc, c'est des situations qui arrivent assez régulièrement lorsqu'on travaille sur un objet comme le mouvement syndical, mais aussi sur d'autres, évidemment, types d'organisations. Donc, être proche présente des risques importants, je vais essayer de l'expliquer, et d'ailleurs, il est parfois plus facile, hein, pour des organisations de faire appel à des chercheurs idéologiquement éloignés d'elles, que de conférer la légitimité à des travaux proches, mais perçus comme critiques, en fait. De plus, être proche de certaines organisations syndicales comme la CGT, Solidaire, la FSU, la CFDT oppositionnelle, et assumer cette empathie avec son objet d'étude, présente aussi des risques, et ça je vous apprendrai pas grand chose, des risques dans le champ académique. Hein. On va donc vous reprocher le fait que ce n'est pas de la science, que c'est de la sociologie engagée, et qu'à ce titre, ça peut être des arguments qui peuvent être avancer dans le cadre du processus de recrutement. Hein. Personnellement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Hein. Soit par rapport à des supports de publication. Hein. Publier à la dispute, c'est publier dans une maison d'édition engagée. Ou par rapport à une critique de la proximité, hein, au regard de l'objet d'étude. Donc, c'est des arguments qui peuvent être avancés, autant le savoir, dans le monde académique, bien sûr, hein, qui vont servir par rapport aussi à la concurrence sur les postes, à la rareté de ces postes, hein, c'est des arguments pour disqualifier un certain nombre de candidats au poste de maître de conférence ou de chercheur. Voilà, donc ces quelques éléments livrés en vrac, hein, m'incitent donc à vous proposer plusieurs points de réflexion. Dans le premier, je voudrais revenir sur le rapport aujourd'hui, la façon dont j'analyse le rapport des syndicats à la connaissance, aux sciences sociales et sociologie critique, et donc aux intellectuels, hein, pour le dire autrement. Et puis dans un second temps, je voudrais essayer de réfléchir à la façon de définir une posture qui ne renonce pas à la critique, hein, tout en ne se coupant pas des attentes et des pratiques des militants syndicaux aujourd'hui. Comment essayer de trouver une position qui, à la fois, essaye de maintenir une réflexivité sur sa propre critique, mais qui, en même temps, ne s'enferme pas, comme tu le disais en introduction, dans la République des Lettres, dans la Tour d'Ivoire universitaire. Donc, premier point, je voudrais revenir sur le rapport des syndicats à la connaissance et aux sciences sociales. Alors, peut-être commencer par dire que, parce que j'imagine que ce n'est pas nécessairement très familier pour vous, mais peut-être pour certains d'entre vous aussi, travailler sur des univers militants syndicaux n'a pas grand-chose à voir avec le fait de travailler sur d'autres types de mouvements sociaux qui sont, je vais peut-être l'expliquer, qui sont en général beaucoup plus étudiés, hein, mouvements intermondialistes, associations de lutte. Alors, pas grand-chose à voir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, quelque part, on sort de l'entre-soi des classes moyennes, hein, et des classes moyennes intellectuelles, hein, qu'on peut retrouver quand on va travailler sur des mouvements sociaux relativement proches à la fois de vos propres caractéristiques sociales ou de votre propre trajectoire sociale, en fait. On va peut-être retrouver, effectivement, dans la composition des organisations syndicales aujourd'hui, fortes composantes relevant des classes moyennes, des petites classes moyennes, mais avec une dimension intellectuelle qui beaucoup plus limité et qui, même, je vais y venir tout à l'heure, peut même être critiqué et rejeté, en fait. Illustrer ça, travailler avec les jeunes, le groupe des jeunes à la CGT, c'est travailler avec des jeunes qui n'ont pas accès à l'université. Hein, qui, pour ceux qui sont les plus diplômés, ont des bacs pro. Pour d'autres, non, en fait. Hein. Du coup, ça pose la question du rapport à la lecture, du rapport à la connaissance. Je prends un autre exemple d'un collègue qui travaille sur Force ouvrière, hein, et qui se retrouve à participer à des stages syndicaux où sont tenus des propos ouvertement sexistes, ouvertement homophobes, comme des blagues qui s'échangent dans les stages de formation syndicale. Hein. Donc c'est cet univers-là qui est intéressant de connaître, hein, parce que du coup, ça interroge aussi sur l'acceptabilité de ce type de propos. Ça peut interroger aussi, alors je vais un peu caricaturer, mais je vais y revenir tout au long de mon intervention, c'est-à-dire que parce qu'on pense au service, entre guillemets, c'est très critique, hein, il faut revenir là-dessus, du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, à quel point on accepte finalement que ce genre de représentation soit énoncé devant vous, alors même qu'évidemment ça pose un problème de fond. En même temps, vous êtes obligé aussi, si vous voulez là non plus ne pas griller votre terrain, de ne pas passer pour un intello. Hein ? Si vous voulez réussir à vous faire accepter un minimum dans le milieu syndical, hein, ne pas maintenir une impression d'extériorité qui vient de votre propre condition sociale, hein, quelque part, vous êtes obligé d'accepter un certain nombre de choses. Pourquoi c'est différent aussi de travailler sur des univers militants syndicaux ? Parce qu'il y a sans doute une double dévalorisation de l'objet syndical. Dans le milieu universitaire, dans sa composante la plus conservatrice, l'objet syndical est relativement disqualifié, mais aussi dans le domaine de la recherche sur les mouvements sociaux. Alors là, c'est lié à tout l'attrait pour les nouveaux mouvements sociaux, les nouveaux mouvements sociaux. Vous le savez peut-être, il y a eu beaucoup plus de travaux sur toute une série d'associations, de collectifs, qui sur le plan numérique sont beaucoup plus limités que les organisations syndicales, mais parce qu'ils justement, ils ont pour eux le mérite de présenter des caractéristiques qui sont perçues comme originales, alors même qu'on va leur opposer le monde un peu institutionnalisé des organisations syndicales. Cette coupure est ancienne, hein. Toute la sociologie des mouvements sociaux aux États-Unis s'est construite dans un rejet du syndicalisme. Perçu comme un acteur institutionnalisé, voire un acteur, c'est le cas pour des pans entiers du syndicalisme aux États-Unis, corrompu. Il y avait dans l'imaginaire aussi des chercheurs sur le mouvement social, sur les mouvements sociaux aux États-Unis, c'est l'écho de ces manifestations des années 68 et post-68, où les syndicalistes faisaient le service d'ordre contre les étudiants manifestants contre la guerre au Vietnam. Donc cette coupure, elle est forte et elle a conduit à une très forte, clivage entre les travaux de recherche sur les mouvements sociaux, le mouvement des sangs, les mouvements des chômeurs privés d'emploi, sur lequel d'ailleurs j'ai travaillé par ailleurs, et par exemple, les mouvements intermondialistes, attaques, etc., et le syndicalisme. Donc double dévalorisation et aussi cet effet de décalage par rapport au milieu social qu'il s'agit de comprendre. Le premier point que je voulais évoquer. Deuxième point, pour essayer de comprendre ce rapport des syndicats à la connaissance et aux sciences sociales, je crois qu'il faut avoir conscience qu'il y a une très forte méfiance au sein du mouvement syndical, du mouvement ouvrier français, par rapport aux intellectuels. Très forte méfiance qui provient finalement de l'histoire même du syndicalisme français, du mouvement ouvrier, du syndicalisme révolutionnaire. Cette idée qu'on n'a pas à attendre de l'extérieur, et notamment d'intellectuels qui ne sont pas issus de la même classe sociale, comme on n'a pas à attendre de représentants politiques qui sont issus de la bourgeoisie, un apport en connaissance qui doit venir du monde ouvrier lui-même. Donc c'est toute la réflexion sur la culture prolétarienne, trouvée chez Marcel Martinet, et ça se traduit encore aujourd'hui par parfois ce refus d'un apport extérieur. Par exemple, quand les syndicats sud se sont constitués, ils ont refusé de faire appel pour leur formation à des formateurs extérieurs, pensant que c'est aux militants de s'approprier des connaissances par les lectures et de les transmettre à d'autres militants. Et qu'il n'y a pas à reproduire une coupure au sein du mouvement syndical en faisant appel à ceux qui sont perçus comme des intellectuels. Alors, ce refus d'intellectuel, il peut se traduire aussi de façon plus brutale en refus de ce qui va intellectualiser. Ce refus d'un rapport à la pensée, en fait. On va percevoir comme... et là aussi, je vais essayer de le développer un petit peu plus tard, comme extérieur à une pensée plus pratique, en fait. Donc une réticence par rapport à des textes qui sont perçus comme trop théoriques ou trop abstraits, en fait. Troisième idée, je voudrais avancer là... Il y a très peu de connaissances au sein du syndicalisme aujourd'hui du champ universitaire. Très peu de connaissances du champ universitaire comme champ de pouvoir, de ses codes, de ses hiérarchies. Connaissances très relatives des luttes de positionnement au sein du champ universitaire. Alors, il y a des événements qui peuvent contribuer à ce que cette connaissance progresse. C'était le cas lors du mouvement social de 95, le fait qu'il y ait une opposition comme ça... autour de deux pétitions, une prise de position, un engagement de Pierre Bourdieu à ce moment-là, a contribué à ce que le mouvement syndical perçoive les enjeux autour de la sociologie bourdieusienne, perçoive un peu ces enjeux sur la sociologie bourdieusienne. Mais c'est extrêmement limité. Alors, plusieurs choses, ça m'entraîne à penser plusieurs choses, en fait. Alors, bien sûr, il est indispensable de penser le rapport de domination symbolique qui s'exerce lorsqu'un universitaire intervient, je le disais tout à l'heure, dans une formation syndicale. Mais à vrai dire, il me semble qu'il y a assez peu d'effet de ce rapport de domination. Personnellement, au sein du mouvement syndical, j'ai longtemps été comme doctorante, puis un jour je suis devenue titulaire, je pense que ça n'a eu aucun effet, que ça n'a absolument, ça n'a absolument pas changé la perception. Certains me considèrent toujours comme une doctorante, ça me fait plaisir en termes d'âge, mais c'est quelque chose... et je vais constater au travers d'autres personnes, il n'y a absolument pas de connaissance de ces rapports statutaires, en fait. Comme il y a très peu de valorisation du fait qu'un universitaire vienne travailler avec nous, ou qu'un chercheur vienne travailler avec nous. Ce qui va compter, ce sont les rapports de proximité, le fait de donner à l'intérieur de leur organisation des signes de reconnaissance, de montrer que l'on connaît l'organisation de l'intérieur. Alors, cette ignorance du monde universitaire... elle est liée en partie à l'histoire du mouvement syndical français, à la division de ce mouvement syndical français. Vous le savez sans doute, les syndicats des enseignants sont sortis, ont choisi l'autonomie en 47-48, ne rejoignant en ce moment-là ni la CGT ni Force ouvrière. Et on a un syndicalisme ouvrier qui s'est construit sans sa composante, en extériorisant quelque part sa relation à une composante plus intellectuelle qui était le syndicalisme enseignant. Je pense que ça contribue au fait qu'il y ait très peu de connaissances du monde universitaire, en fait. Ça s'est vu pendant le mouvement des enseignants-chercheurs à l'automne, en 2009. Moi, en tant que sociologue travaillant avec les syndicats, j'étais particulièrement bousculée, particulièrement gênée de voir qu'il n'y avait pas de prise de position en dehors des syndicats de l'enseignement. Par exemple de la CGT, la Confédération CGT, en faveur du mouvement des enseignants-chercheurs. Une indifférence totale. Qui montre qu'il y a très peu de réflexion sur les conditions de production de la recherche, les conditions de travail et de production de la recherche universitaire. Il y a une très forte ignorance là-dessus, comme il y a très peu de réflexion sur le fait, sur ce que signifie le fait de travailler sur le syndicalisme, aujourd'hui dans l'université. Sur ce que signifie le fait de faire sa thèse sur cet objet. C'est un objet, je le disais, dévalorisé, disqualifié. Un doctorant qui fait aujourd'hui sa thèse sur l'objet syndical a très peu de chances de rentrer dans l'université. C'est quelque chose qui n'est absolument pas intégré par les organisations syndicales, qui ne vont pas développer de programmes d'aide, par exemple, de bourses doctorales ou d'allocations sous différentes formes, pour essayer de contribuer à ce qui est de la recherche sur le monde syndical. Ça existe un tout petit peu en droit du travail. Parce qu'il y a des juristes qui travaillent en lien avec les secteurs juridiques des confédérations syndicales. Donc là, il y a un petit peu de réflexion là-dessus. Ils accueillent un certain nombre de doctorants, en cadre de contrats CIFRE ou autres. Mais ça repose vraiment sur des initiatives intellectuelles. Ça m'amène à un point suivant, c'est que les syndicats français sont relativement peu dotés d'outils de connaissance en interne. Sont relativement peu dotés d'organismes de recherche clairement mis au service du projet syndical. Et ça, je pense que c'est important pour comprendre aussi les conditions de production d'une sociologie critique. De ce point de vue, le contraste est assez fort, saisissant, avec d'autres mouvements syndicaux. On peut commencer par prendre simplement les syndicats belges. Les syndicats belges ont mis en place des outils statistiques différents de ceux de l'État, produits par la puissance publique, ont mis en place des centres de recherche, ont des liens forts avec un certain nombre de départements universitaires, à commencer par des départements d'économie. Donc ça contraste, je le disais, avec le fait, par exemple, dans le syndicalisme français, il n'y a aucune réflexion sur la transformation des départements d'économie et la faible place de l'économie hétérodoxe dans ces départements. La CGT avait, dans les années 50, son propre indice des prix. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement, à travers l'INSEE, rendait public l'indice des prix, la CGT était en capacité de produire son propre indice des prix, son propre indice sur l'inflation. Ils l'ont abandonné assez vite. Ils n'ont pas, à ce jour, d'élaboration d'indices alternatifs. Il y a des réseaux d'économistes critiques que vous connaissez, qui, dès après le mouvement de 95, ont essayé de mettre en place des outils tels que des indices sur la pauvreté, sur le chômage, des indices alternatifs. Mais ils ont essayé de contacter les organisations syndicales à ce sujet, mais ils n'ont jamais réussi à les faire prendre en charge, en fait. Frédéric Le Baron a beaucoup travaillé là-dessus. Frédéric Le Baron a essayé justement de créer des liens avec la CGT pour essayer de monter ce type d'indice. De même, dans le cadre d'une recherche collective sur les conflits du travail, qui portait sur la critique des statistiques pour mesurer les conflits du travail, on a essayé de proposer à la CGT d'avoir son propre, produire ses propres statistiques sur les grèves en France. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important, en fait? Les grèves en France, aujourd'hui, elles sont très peu connues. Il y a une large part des conflits du travail qui échappent à la connaissance. L'outil de mesure des grèves en France est extrêmement limité. Et sinon, les grèves sont relayées par leur couverture médiatique, avec les logiques de médiatisation qui sont derrière, en fait. Donc, on sait très peu de choses, finalement, des conflits du travail aujourd'hui en France. Et là, non plus, il n'y a pas de volonté syndicale de disposer de ce type d'outils, en fait. Peut-être que ça va vous étonner, mais par exemple, une confédération comme la CGT, 700 000 membres, la plus grosse, avec la CFDT, la plus grosse confédération syndicale française, n'a pas de centre de recherche économique et sociale. Ils avaient un centre de recherche économique et sociale qui s'appelait l'ISERES, qui a été liquidé, entre guillemets, à la fin des années 90. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un centre de recherche historique, l'Institut d'Histoire Sociale. Donc ils n'ont pas cet outil de connaissance. Il existe un autre outil de connaissance pour les syndicats qui s'appelle l'IRES. l'Institut de recherche économique et sociale, qui a un gros centre de recherche financé par l'État pour faire des recherches au service des syndicats. Cet institut, il est en crise, hein, et aujourd'hui, il y a un rapport très instrumental des organisations syndicales qui se servent de cet institut pour avoir des financements, mais qui, quelque part, ne s'intéresse pas au devenir même de cet institut et au type de recherche qui est menée. De même, vous le savez peut-être, il existe, ce qu'on appelle les instituts du travail dans les universités. Les instituts, par exemple, l'ISST, l'Institut des sciences sociales du travail à Paris, hein, à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est que ces instituts du travail ? Ce sont des universitaires qui, dans les années 50, plutôt des juristes, ont essayé d'ouvrir l'université aux militants ouvriers, en créant des lieux de formation syndicale, donc pas extérieurs mais internes. Ce ne sont pas des formations diplômantes, hein, ce sont des lieux qui produisent des stages de formation syndicale. Mais ces instituts du travail sont quasiment désertés par les universitaires, hein, à part les juristes, et ont très peu de place, hein, place extrêmement peu visible dans les universités. Et là, il y a très peu de mobilisation des organisations syndicales par rapport à ça. Hein, comment redonner une certaine vitalité à ces instituts du travail. Alors, je dresse là un portrait assez négatif, assez pessimiste. Vous me direz peut-être, hein, mais est-ce que le regard il n'est pas orienté par rapport à la CGT ? Et qu'est-ce qu'on peut dire du côté de la CFDT, en fait ? Pourquoi je dis ça ? Parce que du côté de la CFDT, vous avez une tradition, un rapport aux intellectuels qui est un peu différent, qui a été affirmé dans les années 70, qui vient à la fois de la tradition du catholicisme social, hein, et notamment de la JOC, cette tradition de former, de savoir agir, hein, de partir des savoirs pratiques, des connaissances des militants, pour les aider à la fois à prendre la parole en public, à s'armer dans les débats. Hein, quelque part, on pourrait renvoyer ça aussi à toutes les réflexions sur l'empowerment, sur la mise en capacité des militants. Et puis, il y avait une tradition aussi, hein, une plus forte ouverture aux réflexions pédagogiques, aux pédagogies émancipatrices, hein, notamment une réception des travaux de Freyer en CDT. Il y a eu un rôle plus fort aussi du SGEN, le syndicat des enseignants, au sein de la CFDT, intégré à la CFDT, avec l'idée aussi que le SGEN, hein, il organisait de la maternelle à l'université, qui ne reproduisait pas les coupures entre les corps, en fait. Donc il y a une tradition plus forte au sein de la CFDT, mais cette tradition qui a conduit la CFDT à avoir et à avoir encore son propre centre de recherche, qui a produit un certain nombre de travaux qui ont intéressé au-delà de la CFDT. Par exemple, peut-être que ça va évoquer des choses pour vous, mais dans les années 90, il y a eu un ouvrage de Philippe Bataille sur le racisme au travail, hein, qui a posé dans le débat public la question, hein, des discriminations ethniques dans le travail, en fait. Hein. De même, ils ont fait pas mal de recherches sur les questions de conditions de travail, de temps de travail. Donc ils ont un outil, mais qui reste un outil assez contrôlé, hein, par l'organisation, en raison même des luttes internes dans l'organisation et tout le processus d'expulsion d'un certain nombre d'équipes syndicales qui n'étaient pas dans la ligne, en fait. Dans les autres organisations syndicales, vous avez la construction assez fragile de centres de recherche, d'instituts de recherche, construction par exemple à la FSU, mais là c'est aussi lié à certaines individualités, notamment le rôle de Christian Laval, hein, et aujourd'hui vous avez une forme de mobilisation de l'Institut de recherche de la FSU par rapport aux travaux de Christian Laval, hein, donc qui a donné une visibilité tout en, peut-être qu'on en discutera après, cherchant une assise au niveau universitaire, hein, et c'est pas le cas par exemple à Solidaire qui se pense comme un syndicalisme de transformation sociale, un syndicalisme au service de l'émancipation sociale critique du capitalisme, ne juge pas dans ses priorités de construire un centre de recherche interne. Donc c'est assez significatif, je pense. Alors, ce rapport aux intellectuels, autre point que je voudrais aborder, je pense que pour comprendre un peu cette faiblesse structurelle du syndicalisme français dans sa capacité à construire des outils collectifs critiques, ça vient aussi du fait de penser le rapport aux intellectuels dans le cadre d'un rapport aux politiques, en fait. Hein, donc, je pense qu'il faudrait penser cela dans le cadre d'une socio-histoire du rapport de la CGT à l'univers communiste, à l'écosystème communiste, et du coup remettre ça en perspective par rapport à la volonté de la CGT depuis les années 90 de se déprendre de cet univers communiste, hein, de donner des signes de distanciation par rapport au parti communiste, hein. Et ça se traduit à l'inverse par une ouverture tout azimut, hein, une ouverture tout azimut qui n'est plus, qui ne passe pas par une réflexion sur le rapport à la connaissance, mais une ouverture tout azimut à des figures intellectuelles. On va du coup être très sensible à la médiatisation de certaines figures intellectuelles qu'on va faire intervenir dans les journaux syndicaux, même s'ils sont apparemment très éloignés sur le plan idéologique de ce que porte ou portait la CGT. Donc on va trouver, y compris des interviews qui peuvent paraître très étonnantes dans des journaux de la CGT, par exemple, d'intellectuels un peu médiatiques, en fait. Hein, et donc, à mon avis, pour comprendre ça, il faut le renvoyer à cette idée de... On déconstruit une chose qui était très imbriquée, et le rapport d'intellectuel, il passait par le rapport au parti. C'était les intellectuels du parti, hein, que l'on mobilisait, en fait. Alors, on trouve beaucoup moins cela à la CFDT, où il y a une plus grande maîtrise de l'organisation dans son rapport aux intellectuels, une plus grande maîtrise qui se traduit par des opérations de filtrage. Là, on ne va pas solliciter n'importe quelle figure intellectuelle. Il y a des opérations de filtrage de bornage, hein. Il y a ceux qui sont étiquetés comme pouvant être entendus et ceux qui ne le sont pas, en fait. Donc il y a une plus forte maîtrise du côté de la CFDT, et je pense que ça vient, hein, de cette différence dans l'évolution. Enfin, je voudrais aborder deux autres points sur cette première partie. Dire qu'il y a un rapport qui est parfois très instrumental à la connaissance, à la recherche. Et que ce rapport mérite là aussi d'être compris et d'être pensé, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais par exemple, dans les organisations syndicales aujourd'hui, vous avez une très grande consommation des enquêtes d'opinion, des sondages. Vous y serez attentifs, vous verrez que la grande majorité des discours des dirigeants syndicaux commence par la référence à un sondage. Je termine par la référence à un sondage. Et là, il y a une histoire à faire, là aussi, hein, une analyse politique à faire du rapport, par exemple, construit par la CGT au CSA, du rôle de passeur, de médiateur, par exemple, comme Stéphane Rosès, hein, qui va apparaître dans des... dans toute une série d'initiatives rassemblant des penseurs critiques, et en même temps va vendre des sondages à l'organisation. C'est lié aussi au fait que le mouvement de 95 a souvent été interprété comme un mouvement où il y a eu un phénomène de grève par procuration. Hein. C'est l'idée que des salariés du privé n'étaient plus en mesure de faire grève, hein, en raison même de la dureté des conditions de travail et des formes d'emploi atypiques, hein, précaires, hein, et que du coup ils soutenaient les grèves tout en n'y participant pas. D'où l'intérêt de l'instrument sondage pour mesurer ce phénomène. Et du coup, il y a une diffusion massive des sondages, sans réflexion critique sur ce qu'est l'outil sondage, en fait. Et il est très difficile aujourd'hui de faire entendre ce discours critique, hein, sur les sondages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une efficacité du commentaire de sondage, une plasticité de ce commentaire de sondage, qui peut servir dans plein de situations pour l'organisation syndicale en interne. Il est du coup difficile de faire accepter le temps plus long de la recherche. La moindre prétention d'une recherche sociologique a monté en généralité. On ne peut pas dire les Français pensent que, les travailleurs, les salariés pensent que. Et du coup, ça revient bien sûr à s'interroger sur la porosité du mouvement syndical par rapport à ce que je pourrais appeler très vite l'idéologie dominante. Hein, dans le même sens, il y a un rapport aux intellectuels, à la production intellectuelle, qui peut être très ponctuel et qui peut se satisfaire d'une situation d'extériorité. On va faire appel à vous pour professer une parole d'expert pour telle intervention ponctuelle devant le Bureau national, le Comité confédéral national, etc. Mais c'est tout. Hein, en vous, façon d'enfermer la production scientifique dans un rapport à l'expertise, mais qui n'a pas vocation à être discuté, approprié en interne avec celui qui produit cette production, cette connaissance scientifique, en fait. Et ça, c'est en lien, et c'est le dernier point que j'évoquerai dans cette partie, au rapport à un certain type de connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ben je vais l'illustrer par un exemple. Il y a la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu dans la presse, s'est tenue une grande journée à la CGT sur l'influence de l'extrême droite dans le monde ouvrier. Évidemment, c'est un sujet extrêmement important d'actualité par rapport à l'élection présidentielle. Et du coup, c'était l'idée de faire une journée sur le Front National, ses tentatives d'infiltration des organisations syndicales et les catégories sociales, ouvriers, employés. La journée a été construite donc par l'Institut d'Histoire interne à la CGT dans une conception un petit peu du rapport à l'histoire avec un grand H, si vous voulez, un rapport très linéaire à l'histoire. Donc il y a eu des exposés faits par des militants sur l'histoire des fascismes en Europe. Et une réception de ces exposés très scolaire, en fait. Il y avait 400 militants dans la salle, avec des militants qui, quelque part, retrouvaient des bribes de connaissances scolaires et qui, du coup, aussi étaient satisfaits d'avoir accès à cette connaissance historique. Et c'est juste en dernière partie de la journée que des sociologues sont venus pour présenter des travaux de recherche basés sur des entretiens avec des ouvriers aujourd'hui sur leur rapport sur la façon de percevoir les candidatures Front National et le sens complexe du rapport au vote FN, en fait. Mais moi, ça m'a interrogé sur tout le travail à faire, par exemple, pour que ce soit un autre type d'histoire, un autre type de connaissance historique qui soit présenté aux militants. On était très loin de l'école des annales, si je peux le dire autrement, d'une histoire beaucoup plus problématisée, d'une histoire qui ne soit pas une histoire chronologique linéaire. On en était extrêmement loin. Parce que se joue aussi ce rapport à la connaissance qui est un rapport scolaire à la connaissance, avec une forme d'idéalisation d'un univers scolaire qui a souvent été difficile, problématique, pour ceux qui sont en responsabilité syndicale. Donc il y a aussi, dans la façon d'interroger le rapport aux sciences sociales, il y a aussi à penser ce rapport à la connaissance, au type de connaissance. Alors, j'en viens à ma deuxième partie, en fait. Après avoir essayé de faire un peu ce panorama à partir de mon expérience personnelle du rapport des syndicats aux sciences sociales, à la connaissance, comment essayer d'obtenir, en travaillant sur les mouvements sociaux, le syndicalisme, tenir ce qu'on pourrait essayer de définir comme une posture critique. Je dirais en premier lieu qu'il me semble indispensable de penser que la recherche n'est pas extérieure. Et qu'elle a à reconnaître l'importance de l'apport des connaissances, des savoirs pratiques qui sont ceux des militants et des militantes, en fait. Que la recherche, me semble-t-il, est dépendante de ces savoirs pratiques. Je m'inspirerai un petit peu de ce que dit là Michael Buravoy, en fait, qui est un sociologue du travail américain, qui a beaucoup, je ne sais pas si son nom évoque des choses pour vous. Buravoy, il a fait énormément d'études type ethnographique en usine, pour comprendre les formes de résistance au travail, les formes de résistance ordinaire au travail, dans des études d'immersion. Donc il est à la fois héritier de toute la tradition de la sociologie du travail qualitative, micro, et en même temps c'est quelqu'un qui se revendique du marxisme, un marxisme retravaillé, marxisme américain, et ça l'a amené là sur les années récentes à réfléchir à ce qu'il appelle la sociologie publique, en fait. Il dit qu'il a développé une sociologie publique qui est une sociologie dont l'objectif est de rendre les savoirs à celles et ceux qui en sont à l'origine. Et moi je le comprends dans le sens où, par exemple, la connaissance scientifique du syndicalisme comme fait social me semble nécessairement inscrite et dépendante dans cette connaissance pratique qui est celle des militantes et des militants. Je ne peux pas concevoir, il me semble qu'on ne peut pas concevoir des travaux sur le syndicalisme qui refuseraient, qui seraient complètement étrangers à la vie interne des organisations syndicales, en fait. Buravoy En fait, il a développé toute cette approche de la sociologie publique en disant que, quelque part, la sociologie, en s'institutionnalisant au travers à l'université, au travers des différents départements, des carrières universitaires, des diplômes, etc., avait perdu un peu son sens premier d'exploration, de compréhension du monde, hein, de décryptage du monde social, hein, et que pour retrouver ce sens, il y a aussi à repenser le rapport de la sociologie à différents publics. Et notamment des publics extra-universitaires. Donc, la recherche n'est pas extérieure. Il y a aussi la nécessité de se donner les moyens, et je crois que ça va de pair, hein, c'est imbriqué, de se donner les moyens, toujours imparfaits, toujours à repenser, de surmonter la relation d'extériorité, de surmonter justement ce dont je parlais, ce caractère instrumental du rapport à la recherche, donc de donner les moyens d'une appropriation critique, une appropriation collective, individuelle, critique des travaux de recherche. Là, si on veut qu'il y ait un retour, si on veut rendre le savoir à celles et ceux qui en sont à l'origine, il faut s'interroger sur les conditions d'appropriation de ces savoirs. À la fois se dire que ces savoirs donc sont pas conçus in abstracto, et en même temps qu'ils sont donc dépendants des savoirs pratiques, mais aussi essayer de réfléchir aux conditions d'appropriation. Et ces conditions d'appropriation, elles nécessitent de se déprendre, hein, de tout ce que j'ai voulu essayer de pointer tout à l'heure en termes de rapport instrumental à la recherche. Elles nécessitent de se déprendre des usages médiatiques qui sont faits des recherches sur les mouvements sociaux et sur le syndicalisme, hein, qui vont figer ce rapport instrumental. Hein, on va cesser de vous solliciter comme expert et du coup figer cette extériorité, elle nécessite aussi de se déprendre également des habitudes, des façons parfois de travailler des organisations syndicales. Pour moi, par exemple, il y a pour le dire autrement, il y a une importance extrêmement forte à publier justement dans des maisons d'édition qui veulent se situer à la charnière entre le monde universitaire et l'univers militant diversifié. Parce que ça peut être un des supports de diffusion, en fait. Je vais peut-être provoquer un petit peu en disant le livre qui s'est le plus lu de Pierre Bourdieu, hein, c'est La misère du monde. Moi, j'ai déjà vu des militants syndicaux avec La misère du monde, j'ai jamais vu des militants syndicaux avec d'autres ouvrages de Pierre Bourdieu qui sont totalement inaccessibles. Donc, il y a aussi une réflexion sur les supports, hein, et sur le type d'écriture. Hein, qui est indispensable. Hein. Ce que je voudrais apporter comme élément de réflexion sur ce que peut recouvrir une posture critique, c'est aussi une réflexion sur où passe la frontière entre posture critique et le fait de se retrouver un beau jour comme intellectuel organique intégré dans une organisation, en fait. Hein. Là encore, hein, Michael Burava dit dans il y a différents types de sociologie publique, de sociologie qui se préoccupe du public auquel elle s'adresse. Il dit il y a une forme de sociologie publique très connue qui est finalement une sociologie publique organique. On va travailler avec une organisation, une association, un centre social, un syndicat et se mettre quelque part au service de cette organisation. Simplement, il me semble que c'est une position qui n'est pas satisfaisante et lui non plus la définit pas comme satisfaisante parce qu'elle abandonne d'une certaine façon la critique, en fait. Comment se rendre compte qu'on se retrouve dans cette position d'intellectuel organique ? Il me semble qu'il y a plusieurs indices par rapport à ça. Ça peut être dans le fait qu'on va se retrouver dans le refus de dire certaines choses. Dans le refus de rendre public certaines choses. Alors ce refus de rendre public certaines choses peut venir du fait que vous les savez parce que vous avez été accepté en interne, parce que vous n'êtes plus tout à fait vu comme un chercheur extérieur, et que du coup vous avez accès à un certain nombre de connaissances, mais est-ce que vous pouvez les dire, en fait ? Ça peut être aussi parce que vous intégrez le fait de ne pas fragiliser l'organisation ou le mouvement syndical. Par exemple, est-ce que je vais aller écrire et dire qu'aujourd'hui, l'activité juridique de grosses organisations comme la CGT et la CFDT repose sur trois spécialistes du droit et un retraité bénévole ?
Ça y est, c'est fait.
Ouais. Ça peut poser problème. On se dit, par rapport à l'arsenal, les bataillons d'avocats et autres du côté du patronat, on a une fragilité de ces organisations qui est extraordinaire. Est-ce que je vais rendre public le fait qu'il y a une inorganisation, alors l'analyser autrement, mais une difficulté à coordonner les activités dans ces organisations syndicales. Donc tout ça, c'est des limites qu'on rencontre dans l'écriture. Hein. Est-ce que ça, je peux le dire? Alors, est-ce que je peux le dire par rapport à d'où viennent mes connaissances? Mais est-ce que je peux le dire aussi par rapport à, justement, à ce que tu évoquais tout à l'heure au travers de la citation de Jean-Marie Vincent, aux rapports sociaux dans lesquels vont s'inscrire ces connaissances, hein, et l'usage qui va être fait de ces connaissances. Donc, c'est des frontières. Je ne dis pas qu'on devient un intellectuel organique parce qu'on se dit non, je renonce à dire un certain nombre de choses. Mais je pense que c'est quand même des signes qui incitent à y réfléchir, en fait. Devenir un intellectuel organique, c'est aussi, alors je pense que là c'est plus évident, tomber dans une forme de conformisme. Conformisme de l'organisation, ce qui peut être paradoxal, alors que justement, on ne dépend pas financièrement de l'organisation. On a un statut, un travail stabilisé, une position salariale stabilisée. On va rentrer dans une forme de conformisme en acceptant, par exemple, que des questions, que des enjeux ne soient pas posés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'idée que de ne pas abandonner les exigences d'une sociologie critique tout en travaillant avec le mouvement syndical. C'est-à-dire qu'il y a du sens à faire entendre au sein du mouvement syndical certains travaux, à faire en sorte que certaines questions soient posées, pardon, qu'il y ait des stages syndicaux, qu'il y ait des débats, sur les formes, les différentes formes de domination, sur les recompositions du groupe social ou de la classe ouvrière aujourd'hui. Hein, que ces enjeux-là existent. Ne pas accepter qu'ils ne soient plus posés. Hein, ou s'ils ne sont pas posés, le dire, en fait. Parce que c'est ou faire en sorte qu'un certain nombre de travaux soient connus au sein et débattu au sein du mouvement syndical. Je vais prendre un autre exemple. Hein. Vous avez peut-être vu cet ouvrage collectif sur le mouvement des sans-papiers, dirigé une recherche qui a été menée par toute une équipe autour de Sébastien Chauvin, Anne Bory, qui a donné lieu à un ouvrage grand public à la découverte, qui reprend le slogan de lutte des sans-papiers, hein, on travaille ici, on reste ici. Et justement, cette équipe de chercheurs qui a étudié le mouvement des sans-papiers sur plus d'un an, qui a suivi, hein, qui a été insérée dans la lutte, hein, qui aussi, pour pouvoir connaître ce mouvement des sans-papiers de l'intérieur, ils ont pris en charge les uns et les autres le fait de constituer des dossiers administratifs, d'aider dans le cadre du mouvement des sans-papiers, hein, pour ne pas être simplement des chercheurs extérieurs. Hein. Et puis, ils ont eu ce souci, hein, que j'ai essayé aussi d'exposer ici, de ne pas simplement publier dans des revues académiques, hein, de publier un ouvrage grand public, hein, qui est construit comme le récit du mouvement des sans-papiers, publié à la découverte. Cet ouvrage, ils ont envoyé les épreuves aux différentes personnes qui sont citées dans l'ouvrage, donc notamment aux militants qui ont piloté un peu la grève des sans-papiers à la CGT, en fait, hein. Ils ont reçu le lendemain une lettre recommandée leur demandant de ne pas publier, ou d'enlever les noms, et d'enlever un certain nombre de passages. Ils ont refusé. Hein, ils ont discuté avec leur éditeur, ils ont refusé. Bon, bah, pour moi, là, je prends un exemple très concret, on est au cœur même de ce que c'est qu'une posture critique, en fait. Pourquoi ont-ils refusé, en fait? Ils ont refusé parce que l'ouvrage pose la question, hein, d'un soutien fort au mouvement des sans-papiers, mais d'un soutien limité. D'un soutien limité parce que, oui, il y a des formes de racisme à l'intérieur de l'organisation. Oui, il y a des formes latentes, hein, de racisme qui ne peuvent être pensées que si elles sont dites, que si elles sont explicitées. Mais le dire, ça passe comme quelque chose de scandaleux dans une organisation qui se revendique du mouvement ouvrier, de sa tradition. Hein. Ben, eux ont tenu bon en disant c'est extrêmement important à la fois de rendre des comptes par rapport à ce que nous avons fait comme étude et du coup de publier cet ouvrage en public, hein, de dire comment nous avons produit cette étude, mais en même temps, on ne va pas renoncer à ce que l'on dit, parce que ça ferait du tort à l'organisation, parce qu'il est extrêmement important que ce débat ait lieu. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus de salariés d'origine immigrée syndiqués dans les organisations syndicales françaises? Parce que est-ce que ça a du sens de réfléchir en termes de, comme le suggère un certain nombre de chercheurs, de continuité sous différentes formes de l'emprise, de l'effet des rapports sociaux postcoloniaux. Donc c'est des questions à introduire. Là, en l'occurrence, au sein du mouvement syndical, je pourrais dire dans d'autres types de collectifs ou d'organisations. Pour moi, voilà, la tension, elle se situe là. Elle se situe dans cette... et peut-être que je vais terminer l'intervention là-dessus. Elle se situe sur cette idée de penser une recherche, une sociologie qui prend en compte le fait qu'elle se nourrit des savoirs pratiques, qu'elle a à rendre des comptes à ceux vers qui elle se dirige, mais en même temps qui n'a pas à accepter des logiques d'organisation, ou qui n'a pas à se transformer en une sociologie, en une forme de recherche-action, ou une sociologie uniquement au service des organisations. Ça serait se déprendre de la critique. Et c'est que, alors, c'est une posture qu'on peut tout à fait, qui peut venir vite, qui peut venir vite pour des raisons parfois tout simplement financières, logistiques, qui peut venir vite aussi parce que c'est une difficulté à tenir la distance par rapport à ça, en fait. Je vais peut-être arrêter là pour et reprendre si vous voulez sur un certain nombre de points.
Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention.
J'espère que ça vous a intéressé malgré le côté très particulier et qui peut-être ne vous parle pas des recherches sur le mouvement.
Non, au contraire, enfin, moi personnellement, je trouvais ça tout à fait intéressant, justement, que tu partes de ton expérience propre, existentielle et singulière de chercheuse qui travaille sur un objet spécifique. Mais en fait, ça pose tout un tas de questions tout à fait générales sur le rapport des sciences sociales à son objet, et puis de la critique en particulier par rapport à cet objet-là. Évidemment, c'est très très riche, il y a plein de choses à... on aura sans doute beaucoup d'occasions de te redonner la parole pour explorer davantage de points. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Moi, j'ai plusieurs petites questions. Je dirais qu'il y en a... Enfin, petites questions. Non, elles sont plutôt massives, en fait. Je suis désolé, mais... je crois que tout au long de ton intervention, tu poses une question qui est véritablement centrale, enfin qui pose cette question d'engagement, hein, sur la nécessité finalement de créer ou d'essayer de créer, de construire, de co-construire ce qu'on pourrait appeler des espaces publics oppositionnels, hein, avec NECT, c'est-à-dire finalement de construire des lieux, des espaces où puissent à la fois être produits, transmis, s'exprimer un savoir qui serait partagé par différentes personnes qui ont pas, enfin, qui partagent pas un statut commun, justement au regard de la production du savoir. Et donc, il y a une question centrale qui traverse ton intervention, qui est finalement, comment est-ce qu'on fait pour produire, enfin, quelles sont les bonnes modalités finalement pour produire sur quelque chose, mais aussi pour les gens sur lesquels on produit une connaissance, qui sont à la fois objets, mais aussi, je dirais, récepteurs de ce savoir-là. Donc, produire sur, produire pour, et puis allons jusqu'au bout. Et tu rappelais effectivement le propos de Jean-Marie Vincent que j'avais introduit, mais aussi produire avec. Et que finalement, on voit bien dans le... Je dirais, à la fois aux entours du champ académique, aux entours, on va dire, du champ des mouvements sociaux et du champ syndical, qui existe un certain nombre de choses qui pourraient correspondre à cette définition d'un espace public oppositionnel. On voit notamment tout un tas de revues qui ne sont pas réellement des revues académiques, mais faites par des universitaires. Tu as cité Mouvement, on pourrait citer... Contre-temps, la RDL, Rilly, Temps Nouveau, etc., etc., qui ont assez directement et assez simplement comme objectif de justement essayer de mixer, on va dire, les savoirs militants et les savoirs universitaires, qui seraient destinés à la fois aux universitaires et aux mouvements sociaux. Mais de fait, si on regarde d'un peu près, on se rend compte que ces revues-là sont quand même faites par des universitaires, et la part, je dirais, alors c'est assez marrant de voir, par exemple, si on prend une revue, de voir l'évolution dans les numéros. Alors on essaye de se tenir à cet objectif-là dans les premiers numéros, donc il y a une espèce d'hétérogénéité du savoir produit à la fois par des militants, des acteurs du mouvement social et puis des universitaires qui sont aussi par ailleurs acteurs du mouvement social, enfin une espèce de mélange quand même. Et puis au fil du temps, on voit que ça s'académise de plus en plus. Et je vois par exemple le cas de Contretemps, c'était assez exemplaire de cette évolution-là. Donc il existe des espaces comme ça, de ce type-là. Tu as décrit aussi les instituts de recherche qui sont liés aux organisations syndicales. Même si effectivement tu aspirerais en tout cas toi à ce que ce soit plus développé, mais il existe quand même des choses. Il y a des revues qui sont produites, il y a du savoir qui est partagé par ce biais-là. Donc là, qui est plutôt du savoir militant. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler savoir pratique, c'est aussi du savoir théorique, mais en tout cas porté par des acteurs du mouvement social, entendu dans un sens très large. Donc on voit deux espaces comme ça qui sont aux entours du champ académique et du champ des mouvements sociaux, qui ne se rencontrent pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, si on regarde d'à peu près ces espaces-là, on a l'impression que, alors, ils prennent en charge le produire sur, le produire pour, assez clairement, ils le font, je trouve, plutôt bien. On peut faire un constat d'ailleurs que la pensée critique, finalement, en termes de diffusion, c'est jamais aussi bien. Il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à lire, à regarder, etc. et à penser, mais ça pêche d'un côté comme de l'autre sur le produire avec quand même. C'est-à-dire comment finalement, quelle réflexion on peut mener sur cet intéressement et pas simplement en termes d'appropriation des savoirs, même si cette question-là est centrale, mais sur comment est-ce qu'on fait pour intégrer à l'acte même de production des connaissances les personnes qui sont bien souvent considérées comme de simples informateurs, même si on a toute l'empathie, effectivement, pour ces sujets-là. Donc, j'aimerais bien que tu reviennes éventuellement là-dessus, enfin, en partant peut-être de ton expérience sur le produire avec, comment tu le négocies. J'avais une deuxième question qui est peut-être le pendant de cette première question-là, qui me semble que effectivement, quand on est dans une réflexion sur la critique, et sur l'activité scientifique critique, on se doit d'être réflexif, et d'abord réflexif par rapport à, je dirais, à son propre champ d'exercice, c'est-à-dire au champ universitaire, dont tu as dit deux, trois choses, deux, trois anecdotes à ce sujet-là. Toi, pareil, en partant de ta propre expérience, quelles sont finalement les réflexions que tu as pu mener en termes d'analyse je dirais, des règles du jeu académique, des rapports de domination à l'intérieur du champ académique et des champs disciplinaires, des règles de la gestion universitaire, etc., etc. Qu'est-ce que toi, finalement, tout ce travail sur le syndicalisme et toute cette réflexion sur quelle est ma place, finalement, dans le dispositif de production du savoir, comment est-ce que tu le réinjectes éventuellement pour faire une critique aussi du champ académique? Quelles sont concrètement, et je dirais très pratiquement, les positions que tu peux défendre dans ce champ-là? Alors ça, c'était par rapport à ton intervention. J'avais une troisième question qui était liée, je dirais, qui était au carrefour de la lecture de tes travaux et de la lecture de l'ouvrage là, que j'ai fait sur Kiné de Delphine Naudier et de Maude Simonet qui s'intitule « Des sociologues sans qualité ?» Point d'interrogation. Si on prend au sérieux le raisonnement qu'elle mène dans cet ouvrage-là, et puis qui s'inscrit d'ailleurs dans la structure même de l'ouvrage, finalement, elle dit qu'il y aurait finalement trois types de rapports à l'engagement possibles dans le cadre d'une activité scientifique. Elle parle, enfin, il y a toute une partie sur l'engagement politique et l'engagement militant, qui est le type d'engagement dont on a discuté ici et la dernière fois, donc un engagement qui serait, on va dire, moralement fondé et puis qui peut pratiquement s'actualiser au sein d'organisations, des mouvements sociaux, etc. Il y aurait un engagement qu'elle qualifie d'un engagement par l'objet, c'est-à-dire un engagement qui serait cadré par une demande sociale, et comme dit Castel, la demande sociale, c'est pas la demande, nécessairement la demande sociale des entreprises, des forces libérales aussi, c'est aussi la demande sociale, des mouvements sociaux, des syndicats, etc. Donc cette nécessité d'une participation empathique, tu l'as évoqué également. Et puis elle parle d'un troisième type d'engagement, un peu plus particulier mais intéressant aussi. Elle le qualifie d'engagement corporel, où le corps finalement devient un instrument de découverte et de connaissance. Ce serait presque le corps comme appareil de preuve, l'engagement physique comme étant révélateur ou comme étant un dispositif d'enquête à part entière. Et il me semble que ces trois dimensions-là, qui sont distinguées, je dirais, pour des nécessités assez clairement éditoriales dans le livre, sont, bien évidemment, elles sont liées. Elles sont liées. Et donc, je me demandais s'il ne serait pas utile de travailler, finalement, ou essayer de travailler à une théorisation de l'engagement dans les sciences sociales, susceptible de rendre compte de ces trois dimensions-là. Et comment est-ce qu'on pourrait faire, finalement, alors Loïc Vacand, notamment dans ce livre-là, une formule, il dit comment est-ce qu'on passe des tripes à l'intellect ? Parce qu'il parle évidemment, enfin, il revient sur corps et âme, l'ouvrage ethnographique qu'il a fait sur son engagement en tant que boxeur à New York. Et je voudrais avoir ton avis, finalement, là-dessus, si tu penses que c'est un projet intéressant d'essayer de lier finalement ces trois dimensions et d'essayer de théoriser ça dans un même mouvement, vers quel type de ressources théoriques, question vraiment ouverte et pas piégée du tout, hein, vers quel type de ressources théoriques il faudrait aller pour construire ce cadre d'analyse de l'engagement intégré. Je suis désolé, hein, c'est un peu gros tout ça, mais... Peut-être que tu peux répondre à ce premier volant de questions.
Oui, parce qu'en plus, il amène à réfléchir sur le champ universitaire, en fait. Hein. Oui, je suis syndiquée à la FSU, en fait. Hein. Je me suis syndiquée dans le... Alors, ça renvoie à des réflexions internes au mouvement syndical, c'est-à-dire que il y a toujours ces débats où se syndiquer et dans l'organisation majoritaire la plus forte, là où finalement ça fait un peu masse pour que c'est du sens en fait. Hein. Même si du coup, donc je suis au SNESUP, hein, et organisation que je ne connaissais pas, je n'ai jamais travaillé sur le SNESUP et je ne travaillerai pas sur le SNESUP, même s'il y aurait des choses à faire. Qui est une organisation quand même très intégrée dans le fonctionnement universitaire et qui peut servir de marchepied. À l'accès à la présidence de l'université, en fait. Hein. Donc c'est un univers que j'ai découvert plutôt en tant qu'adhérente du syndicat et par rapport au fonctionnement de la section locale. Et bon, peut-être justement pour partir ta question et venir sur le champ universitaire. Et du coup, par exemple, j'ai pu être étonnée et intéressée au fait que quand une section syndicat SNESUP, un peu de vie militante, hein, ça n'intéresse pas nécessairement la direction du SNESUP parce que c'est pas tellement de genre de pratiques qui sont valorisées dans une organisation syndicale comme celle-ci en fait. Hein. Alors la question renvoie est-ce que ça peut faciliter. Du coup, moi j'ai préféré ne pas travailler sur le syndicalisme enseigné en fait. Hein. Évidemment, beaucoup lire ce qui est fait sur le syndicalisme enseignant parce que ça m'informe à la fois par rapport à mes propres travaux, mais aussi par rapport à mes propres pratiques militantes dans l'université et sur l'université. Mais il me semble qu'effectivement, là, il peut y avoir quand même une difficulté assez forte d'être... difficulté d'accès, peut-être aussi, à d'autres organisations syndicales. Il me semble difficile, du coup, par exemple, de travailler sur celui d'éducation et on leur dire je suis membre du SNESUP, ça n'a pas forcément une très bonne perception, ce que je peux tout à fait comprendre en fait. Hein. Alors ça c'est... Mais après, je n'aurais pas conçu ne pas être syndiqué dans mon activité professionnelle. dans la mesure où ça me paraît aussi renvoyer à une posture critique, en fait. Alors, en même temps, j'ai conscience en disant ça peut être ne pas être syndiqué, en tout cas, pas être, je n'aurais pas conscience de ne pas être engagé d'une certaine façon dans ma posture professionnelle, en fait. Et je comprends très bien que certains ne fassent pas le choix d'être syndiqués vu l'état du syndicalisme enseignant, mais fassent le choix d'autres types de mobilisation à l'université. Hein. Donc, c'est pas pour être exclusif sur le syndicat comme seule forme d'engagement sur les pratiques professionnelles. Hein. Dans l'université dans laquelle je suis, on a mis en place un collectif syndiqué et non syndiqué qui essaye de réunir. Différentes, qui essaient de réunir des personnels administratifs et enseignants en même temps, qui sont dans différentes organisations ou qui ne le sont pas, parce que je pense que c'est vraiment indispensable, en fait, un outil et qui est ouvert, en fait. Donc, voilà, du point de vue des pratiques, j'irais plutôt vers ce type de choses, en fait. Hein. Ça m'amène à réfléchir, à revenir sur peut-être la deuxième question, là, sur le champ universitaire. Hein. Je le disais tout à l'heure, peut-être que ça a pu choquer ou que ça peut vous surprendre, mais je disais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une thèse, et voilà, enfin, moi je suis sollicité, je discute très, très, évidemment très souvent avec des étudiants en master qui ont envie de continuer une thèse sur mobilisation sociale, sur le syndicalisme. Et alors, outre toutes les difficultés de recrutement liées à la rareté des postes, hein, il y a aussi l'enjeu par rapport à l'objet même qui est choisi, en fait. Hein, qui va être perçu, ça va être perçu comme un objet marqué, en fait. Et le fait qu'il y ait très très peu de possibilités me conduit non pas à décourager les étudiants qui souhaitent le faire, mais en tout cas à fortement les avertir de ça, c'est-à-dire du poids supplémentaire qu'il va y avoir à travailler sur un objet comme celui-ci. Et il me semble que par rapport à ce qui joue dans l'université, ce qui joue aussi au travers de la légitimation de certains objets, la disqualification d'autres objets qui passent aussi par l'attribution des allocations de recherche et contrats doctoraux, un des combats aussi dans l'université, c'est d'essayer de laisser de l'espace pour ce type d'objet. C'est-à-dire aussi de relégitimer, de créer des espaces universitaires, alors en l'occurrence là je parle de mon domaine de recherche, où l'on parle du syndicalisme. L'objet syndical, hein, comme objet légitime pour des séminaires de recherche, dans des centres de recherche, pour des enseignements, dans des cours. Hein. Donc déjà un petit peu comme premier positionnement dans l'université. Moi, ça m'a conduit à monter, par exemple, un Master 2 ouvert aux syndicalistes en formation continue. Dans l'idée aussi que c'est pas simplement dans cette relation, c'est aussi, et c'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu sur les instituts du travail dans l'université, pour moi c'est un très très beau projet qui a été porté dans les années 50-60 et qui aujourd'hui a perdu un petit peu de sa vitalité. C'est aussi ouvrir l'université. Ouvrir l'université par des cours du soir, hein, mais pas des cours du soir parce qu'on a envie de venir écouter et que voilà on fait l'université de tous âges ou non, des cours du soir diplômant de l'université accessible à ceux qui travaillent, hein. Et c'est ouvrir l'université aussi au travers de diplômes, hein, ou accessible en formation continue et accessible sans avoir un niveau M1 ou une maîtrise pour pouvoir y rentrer, hein, à partir de l'expérience militante, en fait, hein. Donc ça c'est des combats très limités. Mais il me semble que c'est des combats apportés dans l'institution universitaire. Et du coup, de jouer un peu sur les espaces qui peuvent exister, en fait. Hein.
Est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y aurait une nécessité à trouver une modalité d'organisation quelconque, hein, pas nécessairement syndicale, bien évidemment, mais d'organisation, finalement, des universitaires critiques, d'une manière générale? Razmig, la dernière fois, nous parlait d'un phénomène d'américanisation, en fait, de la pensée critique, où les principaux chercheurs critiques reconnus comme tels, il y avait pas photo, il y avait vraiment une pensée critique qui était produite, en tout cas aux États-Unis, travaillaient dans les très grandes universités, c'est-à-dire les universités qui formaient les élites libérales, finalement. Et que très clairement, ce travail critique qui était produit par ces gens-là n'était pas relayé, je dirais, dans leur propre champ académique par une activité critique au sein même de ce champ-là. Mmh. Assez clairement, je ne pouvais pas se permettre de, quoi. Sinon, ils étaient virés de la fac, etc. Mmh. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aurait nécessité, ou est-ce que tu envisages même, tu aurais pensé à des choses comme ça, d'organisation, finalement, Qu'est-ce qu'on peut faire autre, enfin, autre manière de poser la question, quand on se revendique de ces perspectives-là, quelle nécessité au regard des rapports de force qui existent aujourd'hui dans les disciplines, entre les disciplines et au regard des réformes de l'université, quelle nécessité d'organisation se pose aux chercheurs critiques?
Oui, j'avais envie d'ajouter quelque chose parce que, en tant que spécialiste des médias, si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est la difficulté de communication avec le monde ouvrier dont vous nous avez fait part, même dans sa frange mobilisée. Pour moi, c'est à relier de toute évidence avec le poids des pratiques médiatiques dans les classes populaires. Et moi, la question critique m'intéresse aussi beaucoup parce que j'essaie de travailler sur la question des risques médiatiques dont les milieux populaires sont particulièrement, ne sont pas les seuls, mais ils sont particulièrement touchés par ces questions. Et en même temps, ça pose le problème de... Enfin, ça m'a frappé, si vous voulez, l'émergence dans votre discours du problème des médias. Quand vous vous étonnez que l'humanité s'adresse à des intellectuels médiatiques, par exemple, en sachant que... Bon, alors, je ne sais pas quel est le lectorat aujourd'hui de l'humanité, mais s'il y a une partie de classe populaire, c'est aussi une façon, peut-être, de faire passer des idées. Parce que le problème des médias, on le retrouve, à mon avis, aussi dans ce que vous avez dit. Alors, vous l'avez expliqué beaucoup par l'histoire du syndicalisme, mais pour moi, il faudrait sans doute rajouter un autre facteur, qui est la place qu'ont les intellectuels, ou que la connaissance, ou le savoir, même de façon large, ont dans les médias. Quand je dis les médias, je veux dire les grands médias de masse, bien sûr, et la façon dont on construit, dès la petite enfance, notamment dans les programmes pour la jeunesse, une représentation de celui qui sait ou du bon élève, etc., qui est décrié et dont, si vous voulez, moi j'ai bien connu le fonctionnement et le discours des diffuseurs, notamment quand ils travaillent pour les programmes jeunesse, et depuis le début des années 90, il n'est pas question que les émissions pour la jeunesse aient une dimension éducative. Depuis les années 90, c'est perçu comme étant un repoussoir. On ne va pas embêter les enfants, etc. Donc, on a construit comme ça des générations qui ont un rapport à la connaissance, surtout ceux qui sont, on va dire, les plus imprégnés du discours médiatique, un rapport à la connaissance qui est un rapport d'hostilité. Et voilà. Fabien dit qu'est-ce qu'on peut faire. Pour moi, il y a un lien. Il y aurait un lien à construire, effectivement. Parce que quand vous dites, pour moi, la question, c'est vraiment aussi la question de comment faire, quel type de support de communication choisir pour essayer de faire passer des idées ou des résultats de recherche auprès d'un public qui ne lit pas. Donc, moi, je veux bien que la critique se porte très bien, que la sociologie critique se porte très bien, mais elle n'est pas lue par ceux à qui elle pourrait être utile. Elle est lue par, très certainement, par la classe moyenne supérieure qui peut avoir un rôle, bien entendu, dans la marche du monde. Mais elle n'est pas lue par ceux à qui on souhaiterait... Et donc, il y a un vrai problème de support de communication et évidemment quand on s'adresse au milieu populaire c'est particulièrement flagrant, mais je pense que c'est quand même un problème qui est très large parce que il y a de moins en moins de gens qui veulent lire des choses longues. J'avais feuilleté le, parce que quand on parle d'université, par exemple, on pense à des projets genre université populaire. Donc, j'avais feuilleté un des derniers ouvrages de Michel Onfray. J'étais effrayée parce que c'est trois lignes sur deux pages. Il y a trois lignes rédigées, une grande photo. Donc, il arrive lui aussi à trouver un public large, mais en lâchant beaucoup, beaucoup de choses. En lâchant presque tout, on va dire, du point de vue du contenu. Et donc, voilà, est-ce que comment dire, vous avez évoqué le problème des sondages, du rapport aux sondages, au fait que les syndicats n'avaient pas, n'acceptaient pas d'avoir une vision critique. Et donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à construire justement sur une éducation aux médias en direction des militants syndicaux un peu large et il me semble que ça pourrait être, je ne dis pas que ça soit rapide, magique, etc., mais pour moi c'est une clé quand même des difficultés. Alors à ça s'ajoute un autre phénomène dont vous n'avez pas beaucoup parlé, mais moi qui rentre depuis peu dans ce monde universitaire, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est l'hyperspécialisation, comment dire, du discours scientifique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que non seulement les milieux populaires s'éloignent du livre, enfin du livre, de l'écrit, et particulièrement du livre, et de façon plus large, enfin je veux dire, les lecteurs d'articles un peu scientifiques diminuent, au même moment, il y a une hyperspécialisation du discours scientifique qui en rajoute dans les faits, à mon avis, de rejet, et qui est lié à des phénomènes de compétition à l'intérieur du champ universitaire, ou comment dire, le langage technique, conceptuel, etc., est une façon, participe des enjeux de compétition, et parfois est tout à fait éclairant, mais parfois c'est aussi une façon de se, comment dire, de marquer son territoire, on va dire, hein, par des... Et donc on a une espèce de d'écartèlement, en fait, de plus en plus grand, me semble-t-il, entre le discours. Et alors, moi, je suis vraiment très intéressée, enfin, quoique nous ne travaillons pas du tout sur vos sujets, je suis vraiment intéressée par votre posture, qui est quand même effectivement assez rare aussi à l'université, c'est-à-dire accepter l'idée que le chercheur a une méthode qui est scientifique et donc qui permet de traiter objectivement d'un sujet, mais qu'en même temps reconnaître que s'il travaille sur ce sujet et s'il va privilégier quand même telle ou telle méthode d'enquête, c'est bien sûr parce qu'il pense qu'il est aussi citoyen quelque part. Et voilà.
Peut-être qu'on te laisse
répondre.
Il y a beaucoup de choses. Après, il y a David qui a une question.
Juste un complément.
Alors, choisis, je t'en prie.
Pourquoi ne pas penser aussi, vous l'avez suggéré, mais qu'on puisse communiquer des résultats de recherche par l'oralité ? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une survalorisation de l'écrit là-dedans ? Et apparemment, le fait aussi dans ces échanges avec les acteurs syndicaux.
Peut-être que ce que tu viens de dire là renvoie aussi à la question du... Puis je prends un peu dans le désordre et revenir sur la... Produire avec, en fait, que tu évoquais tout à l'heure. Il me semble que des expériences, justement, où on n'est pas simplement dans l'idée... voilà, on travaille avec des militants de différents mouvements sociaux, et ils sont nos informateurs, on reconnaît que sont nos informateurs, que grâce à eux, on arrive à progresser dans l'analyse, mais du coup, on est quand même dans cette relation un peu bilatérale, un peu... de subordination quelque part, hein. Comment produire avec. Il me semble que les expériences les plus intéressantes sont justement plutôt des ateliers d'écriture ou des ateliers de discussion où à la fois on intègre, par exemple, qu'il va y avoir un rapport à l'écrit différent, où une équipe de chercheurs peut écrire mais soumettre ses textes, soumettre à la discussion, créer les conditions d'un débat collectif et intégrer après les éléments de discussion dans l'élaboration même du texte. Et c'est des choses que j'ai vues, moi, plutôt du côté de la psychologie sociale, et notamment d'Yves Clos, les équipes d'Yves Clos, ou d'autres chercheurs qui travaillent plutôt sur le travail, hein, sur l'évolution du contenu du travail, le rapport au travail, le vécu au travail, hein, qui, justement, parce qu'ils avaient ce type d'objet, ont beaucoup fait parler les salariés sur et des syndicalistes qui interviennent sur ces questions-là, sur la façon dont ils vivent leur travail. Et notamment, il y a un livre d'Yves Clos qui s'intitule « Nous, conducteurs de train », qui est le résultat d'un atelier collectif, en fait. Alors, la plume, elle a été tenue par les chercheurs, mais ils disent « nous », parce que toute l'élaboration du livre a été faite au fur et à mesure d'atelier sur plus d'une année de discussion, à partir d'enregistrements, de retours sur des entretiens, de discussions collectives de ces entretiens. Alors, ce sont des dispositifs de recherche qui demandent beaucoup de temps, qui sont très exigeants, mais qui sont, me semble-t-il, une des conditions pour réussir à faire vivre ces... Alors, C'est très intéressant que tu aies cité NECT, hein, faire vivre des espaces publics oppositionnels, qui ne sont pas uniquement au travers de revues qui, finalement, comme tu le disais, deviennent un peu des outils collectifs ou même finalement d'intellectuels, en fait, mais aussi de faire vivre et de rendre un peu pérenne d'autres expériences, en fait. Hein. Ça peut être une piste, hein, qui passe essentiellement par un dispositif, hein, de
discussion d'écriture. Moi, je suis très étonné, par exemple, qu'on n'aille pas plus sur une relecture des expériences de production cinématographique, je pense au groupe Medvedkin, etc., ou ce qu'a fait Marine Karmitz quand il n'était pas encore copain de Sarkozy. Enfin, bon, bref. Où vraiment, il y avait cette question-là se posait assez clairement dans ce champ de production du cinématographique, où on venait filmer le mouvement ouvrier, et puis à un moment donné, le dit mouvement ouvrier, en tout cas les ouvriers ou les ouvrières, prenaient la caméra en disant « Vous dites des choses sur nous, certes, mais nous, on est capable aussi de les filmer. » Et d'ailleurs, c'est nous qui sommes capables de les filmer au plus juste de ce qu'on vit et des conditions sociales d'existence. Et il y a eu toute une réflexion, enfin, il y a plein de choses dans Cinémaction, dans les cahiers du cinéma, etc., qui sont assez peu, finalement...
Et dans le cinéma féministe
qui pourrait, bien évidemment, enfin... Et qui pourraient être réactivés, réanalysés, et servir d'exemple. Est-ce que ça, toi, tu as des...
Il y a aussi, on pourrait citer aussi le travail de Michel Pialou avec Christian Corrouge, hein, puis ça renvoie aussi à... notamment l'ouvrage vient de paraître là aux éditions Agone. Hein. C'est un ouvrage qui a un long entretien, là aussi conduit sur plusieurs années et retranscrit entre Michel Pialou et Christian Corrouge, qui était militant, ouvrier, dans l'usine Peugeot sur laquelle travaillait à Sochaux Pialou. Et en fait, il a été l'introducteur de Pialou dans l'usine. Hein, c'est lui qui l'a aidé à comprendre l'organisation du travail, les relations sociales, qui l'a aidé à rencontrer des militants. Et du coup, ils reviennent sur leur propre relation. Et ils reviennent sur la façon dont cette relation a été vécue par Christian Corrouge, ce qui a changé lui dans son rapport au travail, dans son rapport aussi aux sociologues. Enfin, il essaye de discuter de tout ça, et c'est extrêmement riche, en fait. Hein. Donc ça, c'est aussi le temps d'un retour réflexif sur ça, sur le matériau, en fait, et sur les conditions de production de la recherche, en fait, hein, avec l'idée de mettre sur un pied d'égalité, essayer de mettre sur un pied d'égalité, pour ça, de le penser.
En se faisant l'avocat du... D'ailleurs, Beau a fait la même chose avec...
Oui, à part que là, enfin, Pialou s'est construit sur du long terme, sur un échange qui a duré à vraiment, vraiment longtemps. Parce que tu voulais évoquer Beau et le... Et son échange.
Effectivement, l'échange de. Ouais, j'ai oublié son nom, enfin. Toujours dans cette idée, mais si on voulait se faire l'avocat de Gigam, on dirait bon, d'accord, ils en font quoi? Ils en font un livre.
Oui. Mais oui. Mais quelque part, on est aussi prisonnier un peu de l'imaginaire des chercheurs et des universitaires. C'est ça aussi le problème, en fait. Hein.
C'est clair. Hein.
C'est-à-dire que laisser. Justement, créer des lieux où on remet un petit peu ça en cause, c'est ouvrir aussi la possibilité d'autres supports, d'autres façons de faire avancer cette connaissance commune, en fait, hein. Mais en tant que chercheur universitaire, on a quand même l'imaginaire borné par ce type de...
Oui, assez clairement. Ouais. Oui.
D'autant qu'un chercheur produisant n'est pas un chercheur qui parle, mais qui écrit.
Voilà. Ouais. Alors, ça renvoie donc aussi à la question que tu évoquais tout à l'heure sur l'université. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça me faisait penser à plusieurs choses. Il y a le... À Lyon, on a aussi une université populaire à laquelle on est plusieurs à participer. Et il y a des étudiants, par exemple, qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est dommage que l'université populaire n'ait pas lieu à l'université. » Je dis « Oui, mais en fait, tous vos enseignants quasiment avec qui vous discutez sont dans l'université populaire. Hein. » Donc c'est vrai, effectivement, c'est un peu... Donc, il me semble qu'un des enjeux, c'est surtout de ne pas abandonner les premiers cycles, par exemple. Hein. Surtout pas subir... Enfin, on est complètement poussé à ça avec la pression en termes de chercheurs publiants. Hein, aller délaisser l'organisation, les responsabilités administratives, les cours à 400 copies et parce que vous n'aurez pas le temps d'écrire, oui, mais ça veut dire abandonner complètement l'idée d'intervenir dans ces premiers cycles, intervenir dans des universités de masse, hein, parce que sinon, bah, effectivement, on va aller vers une spécialisation encore plus forte des chercheurs, hein, des universités, des enseignants-chercheurs. Qui vont chercher des endroits plus protégés, des universités plus prestigieuses pour avoir le temps de publier, en fait, hein. Et je pense que là, on est vraiment là-dedans, qu'on est dans cette pression-là, et qu'on ne pourra pas y résister qu'individuellement, il faut résister collectivement, parce que sinon, il y a un rouleau compresseur par rapport à ça, en fait. Hein. Moi, je suis complètement d'accord sur la discussion sur les médias. Là. Il existe quand même, au niveau syndical, un certain nombre de stages de réflexion sur les médias, en fait. Le problème, c'est qu'une partie de ces stages se transforme parfois en formation un peu de comment nous, on utilise les médias, et du coup, de stages très pratiques, pour le coup, comment on monte des sites web, il y a besoin de ça aussi, bien sûr, et il y a un peu perdu la dimension critique des médias qui pouvait exister dans les années 70, dans différentes organisations syndicales, en fait. Hein. Mais je crois que tout votre commentaire envoie aussi à la... Alors, quand j'évoquais tout à l'heure, c'était pas simplement des journaux comme l'Humanité, c'est aussi des journaux internes au syndicat. Ils sont des journaux. Mais il y a très peu de réflexion sur le fait de se doter d'autres types de supports. D'avoir des interventions... des journaux qui ne reproduisent... Les journaux syndicaux, pour le dire autrement, reproduisent, essayent de faire comme s'ils étaient des journaux, des magazines de la presse. Donc essayent de copier, quelque part. Hein. Il y a assez peu de réflexion sur une production différente, autonome, qu'on peut trouver dans d'autres types de mouvements sociaux. Voilà, c'est pas la mieux placée pour parler de ça, mais on le trouve assez peu dans les syndicats. Hein, qu'est-ce qu'on fait du support papier? Comment on transforme nos journaux? Ouais, pourquoi on n'investit pas une télévision, ou on n'investit pas plus le web, et autrement, quoi, en fait. Parce que justement, il peut y avoir un autre rapport à la connaissance, un autre rapport au support qui porte la connaissance. Donc ça, c'est assez, effectivement, assez peu répandu, même s'il reste quand même des traces, hein, de cette approche critique des médias. C'est quand même, en tout cas, une ouverture sur la nécessité d'avoir une approche critique des médias. Ça, c'est quelque chose qui reste, me semble-t-il, et qui a un peu prise là-dessus, en fait. Hein. Donc il y aurait des choses qui pourraient être vraiment développées là-dessus, en fait. Il y a une demande, hein, par rapport à ça, en fait. Hein. Et puis, peut-être revenir juste rapidement, mais il y a d'autres questions, sur les trois types de rapports à l'engagement que tu reprenais à partir de l'ouvrage sur les sociologues sans qualité. Ça me semble extrêmement intéressant. La façon dont je comprends l'engagement corporel, c'est aussi de se dire que tant qu'on n'a pas vécu un certain nombre d'expériences, tant qu'il n'y a pas cette connaissance intégrée, en fait, incorporé, il est extrêmement difficile de la comprendre et d'en parler, en fait, et de produire des connaissances sûres, en fait, hein. Et du coup, pour moi, ça renvoie par exemple aux travaux de Robert Linhart, hein, établi. On n'a jamais aussi bien analysé ce qu'est le travail à la chaîne qu'à partir d'une expérience comme celle-ci, en fait. Hein. Et c'est aussi une façon de remettre en cause ses frontières, en fait. Hein. Dont on parlait tout à l'heure, cette extériorité difficile à dépasser, en fait. Donc il me semble que oui, ça ne peut faire partie, c'est une des dimensions pour ne pas rester simplement sur un engagement politique. L'engagement politique qui ne passe pas par un engagement par l'objet, il y a des sociologues qui travaillent sur un objet de façon politique, de façon très neutre, hein, et puis qui par contre sont engagés dans toute une série d'associations ou engagés qui vont aller sur plein de terrains de lutte, mais qui, par contre, ne transposent pas ces terrains de lutte dans leur activité universitaire ou sur leur objet de recherche. Ça, c'est des situations qu'on peut connaître. Après tout, elles se défendent. Hein. Moi, je me retrouve pas dans cette position-là. Alors, c'est peut-être aussi lié à l'objet sur lequel je travaille. Mais il me semble que c'est très compliqué d'avoir des engagements en tant que citoyen et puis de faire une coupure nette avec l'objet sur lequel on travaille en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur, et penser qu'il y a une frontière entre les deux, en fait. Hein. Donc, oui, tenir ensemble les différents types d'engagement, même si l'engagement corporel, il me semble qu'il nécessite, justement, en termes de réflexion méthodologique, il nécessite d'avoir du temps pour pouvoir faire des recherches de type ethnographique, hein, et que là, on revient sur les problèmes des conditions de travail à l'université aujourd'hui, quoi, en fait, hein, et de la difficulté à dégager ce temps-là pour produire ce type de connaissances, en fait. Hein. Enfin, un petit peu comme type de réflexion là-dessus, en fait. Hein. Et c'est pour ça que ça serait très intéressant d'avoir des études de sociologie du travail sur ce que c'est que le travail universitaire aujourd'hui. Hein. Et les conditions de... Comment ces conditions de travail pèsent sur le type de recherche que l'on fait, en fait. Hein. Parce que ça va absolument pas dans le sens de dégager du temps pour pouvoir.
Il y a pas des gens.
À ma connaissance, il y a pas beaucoup de. Ça serait intéressant d'avoir une recherche à la fois sur le travail administratif aussi, en lien en fait. Hein. Ça, l'université comme lieu de travail, hein, de réfléchir à ça.
Bah, c'est difficile, je crois.
Ah oui, c'est difficile.
C'est difficile pour les raisons qu'on a invoquées, qu'on connaît tous. Hein. Effectivement, il faudrait refaire un homo academicus contemporain, ça c'est clair.
Et aussi réfléchir à ce qu'est le syndicalisme, par exemple, à l'université. Le rôle dans lequel est mis le syndicalisme universitaire, en fait.
Hein. Moi, académicus, c'était pas tellement sur les conditions de travail, c'est les enjeux dans le champ.
Ouais.
Mais elles sont plus les mêmes. Assez clairement, donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que peut-être pour rebondir sur ce que proposait Sophie là. Tout à l'heure, est-ce qu'il y a des programmes d'éducation aux médias, par exemple ? Tu parlais des ateliers plutôt de réfléchissons comment les médias, la logique des médias pour s'en servir, pour produire, s'assurer une représentation minimale des luttes, etc. Donc ça, on voit bien comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des stages
dans la formation syndicale, il y a des stages d'approche critique des médias.
Qui sont organisés avec quelle institution ?
Alors, qui sont organisés le plus souvent en interne ou en faisant venir un certain nombre de chercheurs, comme je disais, plutôt de façon ponctuelle en fait. Il y a un programme de stage d'une semaine par exemple, et ils font faire venir des chercheurs sur le domaine.
Ils font ça à la CGT,
oui.
Il y a un papier de Stéphane Olévesi de Lyon dans le dernier numéro de réseau, je crois, sur ça, sur la formation des syndicalistes, notamment la mobilisation.
Ça, c'est un enjeu qui a été perçu comme important, comme crucial au sein d'un certain nombre d'organisations syndicales. Suite à la fois au traitement médiatique des conflits, je pense aussi à l'épisode du non-référendum, du TCE, c'est des choses qui ont contribué à la réflexion interne là-dessus.
Et ça, c'est la dimension politique.
Oui, oui, c'est une entrée par la dimension politique.
Il n'y a pas que... Franchement, je pense qu'on sous-estime énormément l'enjeu de construction des représentations politiques en dehors des programmes d'information,
tout à fait.
Et bon, la recherche a écrit depuis très longtemps beaucoup de choses qu'on pourrait... Mais il manque les canaux de diffusion,
Parce que quand on regarde les initiatives, y compris les initiatives hybrides, on va dire académiques, militantes, qui sont prises sur la question des médias, la création de l'OFM, l'Observatoire mondial des médias, ou les observatoires locaux, etc., ou ce que fait Acrimed, qui est très très bien par ailleurs, mais effectivement, tu as complètement raison. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est les pages rebond de Libé, j'exagère, les pages débat du Monde, etc. Et à aucun moment, effectivement, on s'intéresse aux programmes de divertissement, aux jeux, aux programmes des jeunes, pour mettre en avant la question de l'idéologie, des représentations, de la structure des représentations, etc. Alors qu'elle se joue là, et elle se joue d'abord là. Enfin, c'est les programmes qui sont massivement regardés.
Moi, j'ai eu une expérience comme ça, ce qui m'a frappée dans le civil. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, j'avais une vision très de haut de ces questions-là, mais ça m'a permis d'entendre de très près le discours des diffuseurs. Et donc je comprends aussi votre façon de rentrer dans le milieu, parce que moi, finalement, je suis rentrée dans mon objet de recherche sans savoir que c'était un objet de recherche, et ça l'est devenu. Et j'étais en empathie avec certains aspects, pas avec d'autres. Et ensuite, j'ai été enseignante dans le secondaire. Et là, plutôt dans un lycée de milieu de recrutement très populaire, beaucoup d'enfants d'immigrés, etc. Et je leur enseignais l'économie. Et ce qui m'a sidérée, c'est l'hostilité qu'ils avaient à l'égard de l'État, si vous voulez, à l'égard de tout ce... Alors qu'ils étaient très bien placés pour savoir que l'État les aidait, qui ne pouvaient pas faire de sport sans les aides, qui ne pouvaient pas avoir de logement sans les aides, en fait, etc. Et quand on parlait de questions relatives à l'État, à l'impôt, ils avaient un discours sarkozyste. Ils ne voteront jamais Sarkozy à cause, enfin UMP, je pense, à cause de la dimension xénophobe. Ça, ils y sont sensibles. Mais j'étais sidérée par ça. Mais c'est parce qu'ils sont biberonnés depuis leur petite enfance à un discours, on va dire celui massivement TF1 des médias commerciaux, qui est un discours très hostile. Alors, je ne dis pas que TF1 a construit complètement ce discours. Bien sûr qu'il y a on peut faire des liens avec la culture populaire d'avant la télévision. Enfin, avant les médias, ça remonte à quand même très très loin. Hein, mais avant la télévision. Et tant que... comment dire, enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment un problème politique. L'individualisme outrancier, enfin, les programmes de télé-réalité, les programmes... Mais ça, c'est pas seulement les programmes de télé-réalité. Et donc, à se focaliser uniquement sur les programmes d'information, qui sont importants, mais qui finalement sont très, très, très... Enfin, disons, tous les jeunes, c'est quand même quelque chose qui les touche relativement peu. Enfin, je dis pas que ça soit négligeable, mais... Voilà, je trouve que ça serait important d'arriver. Mais c'est vrai que si on voit les recherches qui ont été menées depuis très longtemps, ne serait-ce que sur la publicité, les effets politiques de la publicité, on se dit qu'on n'est quand même pas... Voilà, que l'éducation aux médias, du côté des militants, des mouvements sociaux, je pense particulièrement au monde ouvrier, mais évidemment pas seulement. Hein. Il me semble très faible, voilà.
Un des grands ouvrages de pénétration de la pensée critique sur la communication en Amérique latine, c'est le bouquin d'Armand Matlar, How to Read Donald Duck, qui effectivement prend pour objet la culture populaire, les comics. Et effectivement, c'est un champ assez délaissé, c'est clair.
Moi, je pense que le livre de Bourdieu sur la télévision, qui est en général détesté par les. Pour de plus ou moins bonnes raisons, par les enseignants, enfin les chercheurs, les universitaires, on va dire, ça doit faire partie des livres les plus lus par les étudiants, en revanche, de Bourdieu. Mais bon.
Bah, très clairement, fin de. À la gare, je suis fondu de cette chose. Que dernière série de sciences humaines sur Bourdieu, effectivement, sur cette question-là, on a Dominique Volton qui nous raconte que Bourdieu n'a jamais rien compris à quoi que ce soit, surtout pas aux médias. Et que, enfin, c'est assez terrible quoi, de lire ça. Et qu'effectivement, où il dénonce, par exemple, finalement, ce stratège de la communication qui a commis des petits ouvrages. Qui portent si peu de pages et finalement, et qui sont destinés à faire vendre et à être lu par des gens qui ne sont pas des académiques. Quoi. Donc on retrouve ce type de critique. Pardon ? C'est Volton qui parle de Bourdieu, bien évidemment. Mais...
Tu parles de Volton, me permet de la petite transition vers la question que je voulais poser, puisque Volton est un expert largement sollicité dans les médias pour commenter, j'allais dire, tout et n'importe quoi, disons tout. Mm. C'est parfois comme un grand n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Vous évoquiez tout à l'heure la question des experts qui sont sollicités dans les médias, et c'est vrai que je voulais juste apporter un regard là-dessus par rapport à ce sur quoi je travaille, qui est justement la médiatisation des paroles d'experts. On voit clairement qu'il y a des registres aussi de paroles qui sont cloisonnés dans les manières dont les journalistes font appel aux intellectuels et aux experts, ce qui fait que un expert d'une question reste associé à une question, devient par une espèce de prophétie autoréalisatrice, prophétie journalistique autoréalisatrice, l'expert de la question parce qu'il tourne, mais aussi il y a des stratégies d'éviction par les journalistes. J'ai en tête un extrait d'entretien que j'avais fait il y a quelques années avec une journaliste de l'UB et que j'interrogeais sur les sociologues qui pour elle étaient des ressources de manière à voir un petit peu comment se construisait le cadrage de l'actualité dans les médias au prisme de l'autorité sociologique. Et donc je lui demandais ce que voulait dire le label de sociologue. Donc première chose, entre sociologue, anthropologue, ethnologue, même parfois économiste, historien, les frontières sont extrêmement ténues en fait. Ce qui tient pas seulement à la perception qu'en ont les journalistes, mais aussi aux stratégies de présentation des intellectuels ou des experts eux-mêmes quand ils sont face à des journalistes, d'une part. Et d'autre part, quand je lui ai demandé du coup de me citer des noms, parce que c'était un peu flou tout ça, donc c'était difficile pour moi d'avoir une typologie du coup, elle m'en cite certains, donc ça va de certains économistes à des anthropologues en passant par des sociologues. Je mobilise le nom d'Éric Fassin, qui est à l'époque où je travaillais moi sur mon corpus, était très présent dans les médias, et elle me répond: Fassin, pour moi, je cite, c'est pas un sociologue, c'est un intellectuel. Donc là, moi ça m'interpelle forcément, parce qu'en plus Bourdieu vient juste de mourir à ce moment-là. C'est vraiment le débat. Donc je lui demande de développer, et elle me dit: pour moi, un sociologue, c'est quelqu'un qui fait du terrain. Un sociologue qui ne fait pas d'enquête de terrain, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas un sociologue. Ça peut être quelqu'un qui a des positions engagées, ça n'empêche pas d'ailleurs. Hein. Mais pour moi, un sociologue, c'est celui qui fait de l'enquête du terrain. L'enquête de terrain. Fassin, pour reprendre cet exemple-là, elle continue là-dessus, elle me dit: Fassin, à ma connaissance, il n'a jamais fait d'enquête dans les Paris gays, parce que c'était lié l'engagement de Fassin à cette époque-là au Pax, etc. Mais comme il n'a jamais fait d'enquête dans les Paris gays, c'est pas un sociologue. Ça, c'était intéressant. Par rapport à Bourdieu, même chose. Bourdieu, quels que soient ses travaux de sociologue, il n'est pas représentatif d'une parole experte. Il ne peut pas apporter grand-chose à la connaissance du monde par le regard sociologique, parce que c'est un intellectuel engagé. Donc il y a aussi cette dichotomie-là entre la figure de l'expert, celle de l'intellectuel, qui n'est pas simplement une histoire de réglage aussi, soit axiologique, soit épistémologique, soit... qui est aussi une catégorie qui est productrice quoi, dans la représentation et qui va grever aussi les registres d'intervention qu'on peut avoir, enfin, qu'ils peuvent avoir dans l'espace public. Et après, c'est difficile quand on est catégorisé de sortir de l'une des casquettes qu'on a endossées, quelle que soit cette casquette.
Ah, c'est intéressant parce que beaucoup là, pour les syndicalistes, je pense que la construction est très, très éloignée de ça, en fait. Hein, ce que c'est qu'un la division entre... enfin, la distinction entre sociologue, anthropologue, tout ça, c'est effectivement très vague. Et puis même la question du rapport au terrain, ça serait déjà bien qu'il y ait cette idée qu'il y a un rapport au terrain, en fait. Hein. Mais ça me... Ce que vous venez de dire, ce que vous aviez dit avant, me renvoie aussi à la question de l'hyper-spécialisation, en fait. Hein. Et il me semble que c'est quelque chose à penser, parce que ça peut être un des freins dans la relation aux organisations, aux mouvements sociaux. Parce que justement, l'idée d'une coopération durable, une coopération qui ne soit pas simplement ponctuelle, et il n'y ait pas simplement cette idée de produire sur, produire pour, mais essayer de produire avec. Du coup, il y a des demandes du côté des militants et militantes qui est... ben, on va te demander de sortir justement de ton domaine de spécialité. Parce que travailler ensemble, c'est du coup aller ben, éventuellement qu'on aille ensemble vers d'autres sujets. Et ça engendre évidemment des réticences par rapport à, là pour le coup, on peut le dire comme ça, mais nos habitudes d'universitaire en fait, où justement on va avoir du mal à se dire ben, attention, là je sors de mon domaine, je veux pas. Ça commence à perdre du sens si je m'improvise sur un... Et donc, il y a des incompréhensions qui viennent de là aussi, qui sont à penser. C'est, effectivement, il y a une hyper spécialisation dans l'université, de la recherche, qui me semble justifiée du point de vue de la critique de l'intellectuel capable de parler de tout, mais en même temps qui pose problème dans la capacité, justement, à s'adresser à différents publics, en fait. Hein. Pas de solution par rapport à ça, mais je pense que c'est quelque chose à penser en fait, hein, en termes de pas simplement s'enfermer dans les légitimités liées au monde universitaire en fait, hein. Et ça peut être simplement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est de, si on ne se sent pas spécialiste sur le sujet, amener au moins ces organisations syndicales, ces militants, à lire d'autres, à connaître d'autres travaux, à les introduire vers d'autres travaux. Je pense que ça peut être un rôle important de passeur en fait, quelque part, qui peut avoir du sens en fait, hein. Ouais, c'est une des difficultés, je pense. Hein.
C'est ce que font aussi les sociologues, que, par exemple, ou les experts qui sont sollicités. Hein, quand ils ne se sentent pas spécialistes, ils renvoient sur quelqu'un d'autre, selon leurs propres termes. Mais il y a aussi une dimension qui est peut-être à interroger, en tout cas, moi, ça m'intéresserait vraiment de l'interroger. C'est la dimension du jeu. C'est-à-dire que quand on fait des entretiens avec ces sociologues, ces économistes, historiens, régulièrement médiatisés, alors est-ce que c'est une forme de dédouanement ou pas, j'en sais rien, mais au bout d'un certain temps d'entretien, quand la confiance s'installe, ils évoquent cette part de jeu et de plaisir, en fait. Au début, ils disent on apprend à être bon dans les médias, il y a des logiques de casting, etc. Donc ils apprennent à bien parler, à aller vite, à réduire leurs titres, donc ils ne sont plus chercheurs en sciences de l'information, mais sociologues, ça va plus vite. Donc il y a ces dimensions-là de casting, et il y a aussi une dimension d'appétence, quoi, pour, pas pour la notoriété, hein, pas forcément pour la notoriété, ou pour sortir de son labo, ou de sa bibliothèque, mais aussi, il y a aussi l'illusion, quoi, on se prend au jeu, qui n'est pas que un jeu militant, ça devient aussi un jeu dans la dimension théâtre.
Une question de Nathalie.
J'ai une petite question. Vous avez beaucoup parlé de cette marginalisation des universitaires traités d'un certain nombre d'objets, et certainement pour vous, cette question s'est posée très vite à cause justement même de la nature de votre objet d'étude. Mais je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de vision partagée entre certains universitaires qui tiennent la neutralité axiologique comme quelque chose de très important et certains militants qui défendent une sorte de gratuité ou de non-spécialité de leur engagement, c'est-à-dire que leur engagement ne prend de sens que s'il est gratuit et il ne fait pas objet d'une spécialisation et même d'une rémunération plus concrètement. Alors, je ne sais pas quelles sont peut-être vos armes, quelle réflexivité on peut proposer aussi bien à ces universitaires qui la défendent qu'à des militants qui voient que la noblesse de leur engagement serait entachée s'ils vont vers une spécialisation ou vers des discours plus construits.
Il me semble que vous pointez quelque chose de vraiment la rencontre entre des logiques qui sont différentes, hein, et qui peuvent aboutir sur finalement des phénomènes co-construits, en fait. Enfin, je me retrouve complètement dans ce que vous dites, c'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas d'intervention, par exemple, de syndicats pour défendre un certain nombre de jeunes chercheurs qui viennent de soutenir des thèses à l'université pour les aider à rentrer dans telle ou telle institution ou telle ou telle, les soutenir, c'est exactement ce que vous dites. C'est cette idée que l'engagement doit être gratuit, en fait. Pourquoi finalement on essaierait de soutenir tel chercheur parce qu'on travaille avec lui et ça peut rentrer effectivement en résonance avec d'autres conceptions de la recherche, en fait. Hein. Donc, je me retrouve tout à fait dans le constat, en fait. Après, je crois que une des façons de réagir par rapport à ça, c'est d'essayer de faire comprendre Alors, là, je pense plus particulièrement, ce que je l'ai dit tout à l'heure, aux organisations syndicales, parce que c'est mon objet, mais c'est parce qu'elles ont plus de moyens que d'autres collectifs ou associations de lutte qui n'ont pas les moyens de peser de cette façon-là. Les organisations syndicales, elles ont un peu de moyens, quand même, hein, au niveau institutionnel. Donc, leur faire comprendre que l'université a un champ de pouvoir, que l'université est traversée par ce type d'enjeu, je crois que c'est important de le dire, de le faire comprendre. Hein, parce que c'est... Parce que du coup, l'idée de la gratuité de l'engagement, elle permet aussi de ne pas du tout s'intéresser à ce qui s'y joue, quoi, en fait. Hein. Et c'est un enjeu en termes de diversité, des objets d'études, de la connaissance, de maintien, de travaux, que ce soit en histoire, en sociologie, comme sur les mouvements sociaux, sur le mouvement ouvrier, il y a cet enjeu-là, en fait. Hein. Donc, pour moi, pour sortir un peu de ça, c'est essayer de faire comprendre ces enjeux, mais pas plus de réponse que ça.
J'aimerais bien réagir sur la gratuité et la gratuité des chercheurs qui passent dans les médias et la gratuité du côté syndical. Je pense que les chercheurs ont besoin de faire reconnaître qu'ils ont une valeur. Je pense que nous vivons dans un monde qui considère que la connaissance a de moins en moins de valeur, enfin si on parle du monde médiatique en tout cas, et qui en prennent quand même beaucoup de conscience. Et donc je pense que c'est important, au contraire, de dire que sans aucun moyen, on ne peut pas faire grand chose en tant que chercheur. Donc arriver quand même à avoir une valorisation financière, fut-elle modeste. Hein,
ça, c'est de la valorisation symbolique plutôt dans les médias.
Alors, non, mais là, je parlais de travailler avec des organisations syndicales, par exemple, et qui comprennent, qui peuvent aider aussi financièrement en commandant des études, des choses comme ça me paraît quand même très important. Alors, pour les médias, c'est une valorisation symbolique, pas seulement, parce que, comment dire, ça fonctionne quand même. Enfin, le choix, je sais pas du tout si c'est pris pour Libération, mais en tout cas, pour les médias télévisés, le choix des invités est très lié à des ouais. accords avec les maisons d'édition. Donc, ça n'a absolument rien de gratuit. Et si vous passez... à minuit comme les nouveaux chiens de garde, c'est à minuit sur France 3, mais si vous faites partie du plan média de la maison d'édition, négocié avec la régie publicitaire, la chaîne, etc., bon, les retombées sont sonnantes et très touchantes, rien de gratuit. Et vous avez que... Alors, il y a d'une part quand même cette réalité financière qui structure beaucoup des rapports entre les intellectuels, les médias et puis le public, hein, quel qu'il soit. Et puis, excusez-moi, je oublie la deuxième idée. Il y a un autre problème qui est celui de la difficulté objective dont vous parliez, d'arriver à s'adresser à plusieurs publics. Et c'est extrêmement difficile quand on vient de finir un travail de recherche où on a dû se placer à un certain niveau de conceptualisation. On sait qu'il faut justifier chaque mot, donc on a un rapport au langage qui est devenu, on va dire, presque quasi paranoïaque. Et ensuite, s'adresser à un public qui peut être intéressé, motivé par les résultats de la recherche, pour qui, quelque part, peut-être même, on a fait ce travail-là, et qui ne va pas du tout comprendre si on emploie le même genre de langage. Et c'est là où c'est extrêmement difficile. Donc Aurélie, tu nous disais la façon dont les intervenants dans les médias doivent, enfin les chercheurs qui ont accès aux médias doivent y travailler, hein, effectivement. Mais en même temps, ça explique, mais ça justifie absolument pas, mais ça explique le fait qu'on ait beaucoup de pseudo-chercheurs dans les médias. Parce que effectivement, parler avec des phrases très courtes pour dire des choses. Comment dire, parce que les journalistes vous appellent et puis ils ont déjà la réponse en fait. Donc c'est pas évident. Si vous loupez le coche, vous vous dites bon ben j'aurais plus. Ça dépend des médias, je suis d'accord. Mais médias grand public, ils ont déjà la réponse. Si vous loupez le coche, quelque part, je ne sais pas quand ils vous rappellent. Et si vous répondez, vous risquez soit de dire n'importe quoi, soit. Enfin bon, bref. Et du coup, ça crée aussi un filtre qui explique pourquoi certains pseudo-chercheurs sont extrêmement présents dans les médias, parce que la vérité scientifique de ce qu'ils ont à dire, bon, outre le fait que le média est lui-même un filtre tel qu'on ne saura jamais si vous avez vraiment dit ce qu'on vous attribue, donc ça c'est une chose, mais ensuite il y a quand même des intervenants, des intellectuels qui sont spécialistes de dire des choses qui d'ailleurs éventuellement produisent beaucoup de livres, donc ça justifie des relations et des passages télé très nombreux, mais qui en même temps ont des relations difficiles avec l'université éventuellement, parce que certains ont lu les livres. Et pour Dominique Volton, c'est encore autre chose, c'est beaucoup plus complexe. Il mériterait des livres à lui tout seul, je pense.
Que tu veux commenter peut-être, ou il y a peut-être une dernière question. Est-ce que tu as peut-être on va te laisser le mot de la fin, forcément.
La minute de silence, on va tout sortir.
Non, mais bon, après, là, ce qui est évoqué sur les médias, moi, ça me fait penser à beaucoup de choses, parce que sur le mouvement syndical, il y a peu de chercheurs, en fait. Du coup, il y a une relation des médias à un petit nombre d'universitaires. Et là aussi, moi, ça m'a amené à justement un petit peu découvrir ce mode de fonctionnement de façon très, très concrète. Et ces attentes par rapport à des commentaires qui sont déjà établis, en fait. Hein, mais une relation qui est très... C'est difficile de faire entendre justement le fait que la recherche repose sur du terrain, qu'il y a un temps long de la recherche. C'est souvent des commentaires, enfin, sur le monde syndical, c'est des commentaires sur les luttes de succession, un,
rapport très, très, très ponctuel aux chercheurs. Je vais prendre un exemple, là, l'annonce du fait que, parce que vous l'avez vu dans les médias, que Bernard Thibault va laisser la direction de la CGT. Le dimanche après-midi, moi j'avais plusieurs appels de journalistes pour commenter ça. Et à tel point que je me suis dit, tiens, mais il a annoncé là qu'il quittait lundi. En fait, hein, il est malade, il a eu, je sais pas. Alors à ce moment-là, c'est vraiment compliqué, mais on arrive là à dire aux journalistes, je n'ai strictement rien à dire sur le sujet. Ça n'a aucun importance, ça n'a aucun intérêt ce que j'ai à dire sur le sujet, en fait. Hein. Mais c'est compliqué de faire entendre ça, ouais. Et en fait, je pense que c'est uniquement pour citer un. Mais là, vous savez bien mieux que moi. C'est justement pour citer un chercheur, quoi. Puis c'est tout, en fait. Hein.
Assumer une posture critique, c'est assumer ce choix-là aussi, de dire mais non, j'ai absolument rien à dire sur cette question-là, quoi. Parfois, là.
Mais après, je pense que ça rentre dans la logique médiatique d'avoir un peu cité dans le papier, on a besoin.
C'est cette phrase qui est merveilleuse de la même journaliste, d'ailleurs, de Libé, que je disais tout à l'heure, qui dit pareil, dans certains. Quelquefois, l'expert, c'est celui qui est légitime à dire, par cœur tellement c'est beau. Quelquefois, l'expert, c'est celui qui est légitime à dire ce que nous, on sait, mais qu'on ne peut pas dire. On est là pour faire de l'info, pas de l'édito. Et c'est exactement ça. Quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une question, comme disait Sophie, à laquelle ils connaissent la réponse, mais ils ont besoin d'un saut d'autorité.
Ok. On en reste là, si vous voulez bien. Merci Sophie encore.
Merci à vous. Pour
l'interaction. On se retrouve la semaine prochaine donc avec une séance sur qui sera dans la pleine continuité de la présente séance sur la réflexivité. On a invité Gérard Mauger qui viendra évoquer ce thème avec nous. On se retrouvera dans la vraie salle, la salle B106, qui est bien plus sympathique que celle-ci. Donc même jour, même heure, vendredi 9h30 en B106 sur la réflexivité. Merci, bon week-end à tous. Merci.